Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix sur Sud Radio avec un trio de choc ce soir. Le président, parce qu'il faut l'appeler comme
très
ça.
Bien. Continuez comme ça.
Vous préféreriez quoi, Sa Majesté?
Président, ça me va très bien.
Président ou Monsieur le Président?
Oh, écoutez, je n'en demande pas tant. On est dans un exercice un peu plus familier que le genre solennel que j'affectionne.
Alors écoutez, président et auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie, vous avez reconnu...
Non, ça se ferait pour moi.
Philippe Bilger, Alaa Oukili, journaliste Sud Radio, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et un... Alors je vais mettre « nouveau » avec 3000 guillemets, parce qu'on le connaît très bien sur Sud Radio, il passe régulièrement dans la matinale de Cécile, de Minibus et Patrick Roger.
Absolument.
Et on l'a pour parler de politique étrangère, Emmanuel Razavi, directeur de la rédaction de Phil Media et auteur du livre « Grand reporter, confession au cœur des conflits ». Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous.
Et vous êtes à distance, si je ne m'abuse, vous êtes du côté de Barcelone, c'est bien ça?
Je suis de l'autre côté de la frontière, effectivement.
Quel dommage, je suis en Espagne, pas loin de Barcelone.
Ah bah écoutez, pas de problème, on ira vous voir pour déguster une paella, une crème catalane, etc. avec grand plaisir. Idée lancée à la cantonade à la direction pour une émission délocalisée du côté du Camp Nou.
On pourra aller voir un match en même temps.
Oh bah, on peut jouer de l'utile à l'agréable. Nos débats du jour à 17h30. Procès des assassins de Mireille Knoll. Les Juifs ont-ils raison d'avoir peur? À 18h30, notre second grand débat. Policiers visés dans le quartier de la Duchère à Lyon, vous l'avez vu, c'était hier, ils se sont fait tirer dessus alors qu'ils s'approchaient d'un gros point de deal. La guerre contre la drogue est-elle perdue? Vous voulez réagir? Le 0-826-300-300 et les réseaux sociaux. En forme, les vraies voix?
Très.
Pas mal.
En forme, bah, parfait, tous en forme.
À fond.
C'est parfait. Alors, à votre avis, les vraies voix, suis-je de bonne ou de mauvaise humeur? Il y avait une chanson, c'était « Je suis de bonne humeur ce matin ». Là, c'est plutôt en ce début de soirée. Hier, j'étais de bonne humeur, alors le changement,
mauvaise,
c'est peut-être même.
Mauvaise.
À votre avis, Alaa?
Je ne parierai pas là-dessus, en fait.
Emmanuel Razavi, plutôt de bonne ou de mauvaise humeur, à votre avis, aujourd'hui?
Alors, écoutez-moi, en ce qui me concerne, de très bonne humeur, mais en ce qui vous concerne, je vois votre visage quand même. Vous avez l'air très sérieux, Philippe.
Ah oui, alors...
Mais je vous juge de bonne humeur quand même.
Alors écoutez, je suis de bonne humeur d'être dans les vraies voies, mais je suis d'une humeur exécrable et vous allez comprendre pourquoi. Il y a une pétition qui circule dans Mediapart. Je cite la pétition... La libération de Georges Abdallah, une exigence de justice. Alors, une pétition. Alors, je rappelle quand même que Georges Ibrahim Abdallah a tué deux personnes. Yaakov Barsimentov, diplomate israélien à Paris, et Charles Ray, qui était un diplomate américain à Paris. Qualifié dans la pétition, je cite, d'agent du Mossad et de la CIA en activité, comme s'il était légitime que des kidam puissent descendre des agents des services parallèles. Mais le summum, alors toute l'ultra-gauche a signé, Olivier Besancenot, beaucoup députés de la France Insoumise, Arlette Laguiller, etc. Mais parmi les signataires, il y a deux personnes dont je ne pensais jamais qu'elles oseraient signer une pétition. Et le pire, c'est la manière dont elles sont qualifiées dans cette pétition. Nathalie Ménigon et Jean-Marc Rouillant, d'Action Directe, qui ne sont pas qualifiés d'anciens terroristes, mais je cite, accrochez-vous bien, ancienne prisonnière politique d'Action Directe pour Nathalie Ménigon, ancien prisonnier politique d'Action Directe pour Jean-Marc Rouillant. Et là, alors, je vais parler d'un temps que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître. Je revois Georges Besse gisant dans une mare de sang sur les trottoirs, assassiné par le commando d'Action Directe. D'ailleurs, c'était les femmes qui tuaient parce que les hommes n'avaient pas le courage. Et ils étaient tellement courageux que quand le GIGN a pris d'assaut la ferme de Vitriologe, ils n'ont pas eu le courage de servir de leurs armes, sachant qu'ils étaient foutus. Mais là, c'était facile d'abattre le général Audran ou Georges Besse, des hommes désarmés. Quand on a une arme à la main, c'est très facile. Par contre, face aux hommes du GIGN armés jusqu'aux dents, là, on se rend parce qu'on est des lâches. Et je suis scandalisé que dans cette pétition sur Mediapart, on les classifie de prisonniers politiques. Alors en ce moment, il y a le procès des terroristes du Bataclan. Va-t-on demain dire que Salah Abdeslam était un prisonnier politique? Ceux qui ont signé cette pétition avec ce nom et qui maintiennent leur nom avec des terroristes qualifiés de prisonniers politiques sont, à mon avis, définitivement disqualifiés et déshonorés. Philippe Bilger.
Mon cher Philippe, vous êtes très justement scandalisé, mais je ne comprends pas en même temps votre étonnement. Voilà, cette pétition est sur Mediapart. Elle concerne Georges Abdallah.
Un terroriste.
L'exécution des peines en France dans les temps ordinaires est déjà extrêmement défaillante. Pourquoi ne pas demander dans une pétition odieuse la libération de celui-ci ? Deuxième élément. Vous vous indignez de la qualification de prisonnier politique sur Rouillant et Ménigon. N'oubliez pas qu'on est sur Mediapart. Hein. Deuxième élément, s'il y en a deux qui sont dans une logique perverse en réclamant la libération d'Abdallah, c'est bien ces deux-là. Objectivement, il y a une cohérence absurde et abjecte de leur part, alors que les autres qui ont signé n'ont pas la même. Donc, vous voyez, je vous rejoins dans l'indignation, mais en même temps, je suis moins étonné que vous, mon cher Philippe, parce que je ne garde plus d'illusions en ce qui concerne le climat de cette extrême gauche totalement emplie de mansuétude pour les terroristes et les criminels prétendument politiques.
Alaa Oukili.
Je vais faire le lien avec ce que vous venez de dire sur le procès du Bataclan qui est en cours. Et je vais citer quelqu'un dont je donnerai le nom juste après. Et les victimes de Syrie, elles auront le droit de prendre la parole, occulter la corrélation étroite entre Syrie et Bataclan, et, pour ce faire, taire la parole des accusés, n'honorant rien la mémoire des victimes, elle l'a trahi. Ça, c'est François Burga, qu'on ne présente plus,
universitaire.
Qui est un universitaire d'extrême gauche, et qui, en fait, s'indignait du fait que Salah Abdeslam ne soit pas, ne s'exprime pas, n'ait pas vraiment le droit à la liberté d'expression qu'il aurait voulu qu'on lui octroie. Écoutez, ça fait des années, depuis bien avant le Bataclan, depuis Charlie Hebdo, que l'on nous décrit dans les universités françaises que les terroristes sont des révolutionnaires. Et qu'en fait, l'islam n'est pas le problème, c'est surtout qu'il est instrumentalisé, utilisé par eux pour se révolter contre le capitalisme, contre le mal blanc dominant, contre les effets de la colonisation, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça ne m'étonne absolument pas qu'aujourd'hui l'extrême gauche ose signer un torchon pareil pour réhabiliter un terroriste, un meurtrier.
Rouillant et Ménigon.
Oui, absolument. Ah bah. Dans cette
pétition sur Mediapart.
Absolument.
Emmanuel Razavi, est-ce que vous partagez mon indignation ?
Alors, non seulement je partage, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit à l'instant, ce que je crois très juste. En fait, on remarque finalement que ce sont toujours les mêmes, si vous voulez, qui prennent position pour les terroristes en les faisant passer pour des victimes. Quand je dis toujours les mêmes, finalement, c'est toujours une certaine gauche extrême ou une extrême gauche qui voudrait faire passer pour des actes politiques, des actes de guérilla politique, ce qui n'est ni plus ni moins en fait que du terrorisme. Et depuis des décennies, si vous voulez, ça dure. Alors après, on peut s'étonner évidemment qu'un journal tout à fait honorable comme Mediapart puisse relayer en fait ce type, effectivement, de pétition. Moi, c'est vrai que ça me choque, de façon extrêmement claire, je vous dis, ça me choque particulièrement. Vous le savez, par mon travail de reporter, j'enquête beaucoup sur le terrorisme depuis des années, et je trouve malvenu aujourd'hui.
Emmanuel Razavi, le son est vraiment pas bon, on va vous rappeler dans quelques instants. Les vraies voix sur Sud Radio, 17h12 à 17h30, notre premier débat. Procès des assassins de Mireille Knoll. Les juifs ont-ils raison d'avoir peur ? Pour le moment, vous êtes 74% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir ? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Alaa Oukili et Emmanuel Razavi. C'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Tout de suite, là. Ça a commencé ?
Oui.
L'émission a commencé ?
C'est ce que je viens de dire.
Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé.
Ah, d'accord.
Le tour de table
de l'actualité.
Et Philippe Bilger, vous voulez parler d'Emmanuel Macron et de sa candidature, parce qu'il est candidat sans l'être tout en l'étant.
Absolument, Philippe. Tous les présidents, il faut être clair, lorsque la fin de leur mandat approche et qu'après nous avoir dit qu'ils sont tout entiers à leur travail, n'ont qu'une envie, c'est être réélu, tous les présidents ont fait ça. Mais je trouve qu'Emmanuel Macron fait ça d'une manière tellement ostentatoire que j'y vois une sorte de mépris de la démocratie. Il dépense à tout va, il est omnipotent, omniprésent, et donc il n'y a que lui. Et il y a quelque chose de navrant dans cette volonté qu'il cherche à instiller dans le climat d'aujourd'hui, qu'au fond, la rationalité serait pour lui et tous ceux qu'il soutiennent, et que les délires seraient pour tous les opposants, non seulement le Rassemblement National ou Éric Zemmour, peut-être, mais les autres, l'opposition classique, l'opposition de gauche, là, c'est le délire. Et donc, je trouve que ça commence à bien faire et que cette ambiguïté permanente, mais vécue sur un mode extrême, est une sorte d'offense à la République.
Alaa Oukili.
Écoutez, comme le dit si bien Philippe, il dépense à tout va. Et ce qui est d'autant plus écœurant, c'est qu'il ne dépense pas seulement en France. Je ne sais pas si vous avez noté tout l'argent qu'on est en train de déverser à l'étranger en ce moment, alors qu'on a fait le quoi qu'il en coûte, qui va s'arrêter et qui risque de révéler que...
Les factures, c'est pour après les élections. Hein.
Oui,
d'ailleurs,
mais
tout est renvoyé
sommes,
après
ah,
l'élection.
Nous sommes en train de dépenser, je vous en prie, nous sommes en train de dépenser de l'argent pour... aider les talibans en ce moment, on se demande pourquoi. On est en train de déverser un argent assez extraordinaire dans des conférences, des meetings, des normes, rédaction de normes. Je ne sais pas
oui,
si vous êtes au courant,
absolument.
Mais en ce moment, on est en train de fabriquer un label pour les entreprises qui, en fait, concerne l'égalité homme-femme. Et c'est sous le haut patronat du président de la République qu'AFNOR est en train de rédiger depuis des mois. Alors, je vous explique très rapidement. Il s'agit en fait de dire, on a proposé aux entreprises une charte pour qu'ils soient égalité homme-femme compatible, mais à façon néo-féminisme, hein, avec écriture inclusive, etc.
Ah oui,
on a dit, c'est facultatif. Parallèlement, on est en train de rédiger des normes pour qu'il y ait un label. Donc c'est facultatif, mais si vous voulez le label, ben, il faudra quand même le faire. Ça coûte un argent de dingue. Entre-temps, pour le chômage... On voit l'assurance, la réforme de l'assurance chômage pour supprimer tout ce qui est contrat en fait intermittent,
ben,
court, etc.
17% en moyenne
ça
pour
ne fonctionne pas. Les coiffeurs cherchent des gens, les piscinistes cherchent des gens, l'hôtellerie-restauration cherche des gens. On est en train de nous parler de la France 2050, la France 2030, la France 2021. Elle ne voit pas d'argent arriver, elle entend des sommes extraordinaires dépensées, on voit une dette Covid qu'on doit rembourser sur 67 ans, et on se dit, mais il faut arrêter de parler d'argent d'État. C'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des Français, et il est dilapidé, et je ne suis pas certaine que les Français sont assez dupes pour croire qu'on est en train de leur faire des cadeaux, ils savent très bien que ce sont des cadeaux empoisonnés.
Emmanuel Razavi.
Ah. De toute façon, il va bien falloir payer à un moment, Philippe.
Ah. Emmanuel Razavi, oui, là où on vous entend à nouveau.
Ah, vous m'entendez à nouveau. Alors, je suis désolé, parce que visiblement, ça passe mal hein, depuis l'Espagne. Mais je rebondissais sur ce qui était dit à l'instant, c'est-à-dire que cet argent-là, à un moment donné, de toute façon, il va falloir aussi quand même le rembourser. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron est un président qui n'est pas encore candidat, mais qui se comporte comme un président candidat en campagne. Mais c'est sûr que ce ne sont pas en fait des frais portés par les soutiens de campagne et par la République en l'occurrence. Et c'est vrai que ça peut interpeller, ça peut choquer très clairement. En tout cas, vu du pays dans lequel je me trouve, c'est sûr que ça surprend.
Alors Emmanuel Razavi, on va passer à votre tour de table. Vous voulez parler du livre de Davet et l'homme qui fait beaucoup jaser, notamment sur l'affaire qui est une affaire alors où il n'y a pas de procès ou quoi que ce soit pour le moment, Alstom.
Mais oui, et du reste, ça rejoint ce que l'on disait à l'instant, en fait, c'est l'enquête sur la vente controversée d'Alstom à General Electric. L'affaire n'est pas nouvelle, parce que ça remonte déjà à quelques années, mais c'est une affaire dont parlent en fait les journalistes d'Davet et l'Homme dans leur livre qui est sorti il y a quelques jours, « Le traître et le néant », qui est consacré à Emmanuel Macron, et elle met en cause justement en fait notre président de la République, car Emmanuel Macron, lorsqu'il était à Bercy, avait donné l'autorisation de la vente d'Alstom à General Electric. électrique. Mais pas seulement, il avait aussi, en fait, donné, en fait, là, le go, en fait, pour que soient vendus, en fait, céder des actifs d'entreprises françaises. Vous en souvenez peut-être, comme Alcatel, notamment Lucent,
oui.
Au groupe Nokia, le groupe finlandais. Ce que rappellent les deux journalistes, c'est qu'un député, Olivier Marleix, dit avoir retrouvé dans la liste des donateurs de la campagne d'Emmanuel Macron des personnes qui auraient été intéressées aux ventes de ces sociétés à l'époque, ce qui pourrait, selon lui, s'apparenter à un pacte de corruption. En fait, ce qui m'étonne, et ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait il y a deux minutes, c'est qu'il me semble que l'on parle moins finalement de l'implication d'Emmanuel Macron dans une affaire de la sorte, finalement, que de Fillon-Sarkozy à l'époque. La justice, surtout, semble quand même beaucoup plus lente. Donc on a l'impression qu'il y a des libertés, finalement, qui sont prises quand on est Emmanuel Macron, mais qui ne concernent pas soit son prédécesseur, soit son ancien challenger.
Philippe Bilger, c'est vrai que ça pose question, parce que l'affaire du Penelope Gate, ça a complètement tué la candidature Fillon dès la fin du mois de janvier 2017. L'affaire Alstom, c'est quand même autrement plus grave, et on a l'impression que c'était surtout, c'est toujours surtout d'ailleurs, circulé, il n'y a rien à voir.
Alors, je suis en partie d'accord avec Emmanuel, bien sûr, il est évident que certaines affaires impliquant même superficiellement Emmanuel Macron n'ont pas été menées à bride abattue. Mais le deuxième élément, et là je me distinguerai un petit peu, même si je ne connais pas le détail de ces affaires, après avoir lu le livre de David Hellom, c'est que, Emmanuel, je ne suis pas sûr que les infractions susceptibles d'être reprochées au président sont aussi caractérisées nettement que pouvaient l'être les transgressions reprochées à François Fillon, qui a été, il faut le rappeler, liquidé judiciairement par un PNF aux ordres à l'époque.
Alain Outili, c'est vrai que Alstom, ça fait beaucoup réagir, mais peut réagir la justice.
Ça fait peu réagir la justice, mais il me semble qu'un politique a demandé une enquête, justement, et il a sur un...
Olivier Marleix.
Absolument.
Ouais. Député LR.
Absolument, et le terme qu'il utilise, si je ne m'abuse, c'est un pacte de...
Corruption.
Corruption, quand même. Pacte de corruption, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que cela peut avoir sur l'opinion en pleine période d'élection. Un pacte de corruption, c'est-à-dire qu'un candidat aurait vendu une partie du fleuron de l'industrie française et en contrepartie des forces obscures lui auraient permis d'accéder à la présidence. Je trouve cette accusation très très grave et j'espère qu'il y aura vraiment plus d'explications de la part de ceux qui lancent l'accusation et de la part de ceux qui en font l'objet, parce que effectivement, ça pourrait vraiment un petit peu bouleverser l'opinion publique et peut-être à tort, et ça nuirait donc à la démocratie dans le contexte des élections que l'on connaît.
Emmanuel Razavi, en 45 secondes, est-ce que, alors ce qu'il y a dans le livre, c'est beaucoup, beaucoup de supputations, ouais. Est-ce que l'affaire Alstom pourrait revenir comme un boomerang dans la campagne présidentielle selon vous ?
Non mais c'est la bonne question. En tout cas, lorsqu'on lit le livre hein, de l'homme et d'Avé, bien sûr, évidemment, enfin, en tout cas c'est une question, parce que pour répondre à Philippe Bilger, qui a raison, les choses aujourd'hui ne sont pas avérées, en tout cas au sens judiciaire du terme, mais à l'époque, je suis désolé, on peut tout à fait considérer que François Fillon, j'ai pas d'action chez Fillon, mais qu'il était présumé en fait totalement innocent. Donc on peut s'étonner effectivement d'une part qu'on n'en parle pas plus que là, en tout cas que ça n'avance pas plus que ça au niveau judiciaire, et on peut tout à fait imaginer évidemment qu'il y a un risque de retour, de boomerang, pour reprendre votre expression, bien sûr.
Là où je rejoins Emmanuel, bien sûr, c'est que peut-être y a-t-il une légère différence entre un climat judiciaire où on n'hésitait pas à forcer d'une certaine manière la réalité pour aller dans une urgence parfaitement choquante, et où avec Emmanuel Macron, on reste tranquillement au bord de la suspicion et peut-être éventuellement de l'exonération. Alors c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse. Un mot à la Paula, vous voulez réagir ?
Oui, alors, on a quand même bien mis en lumière cette histoire dont on ne parle pas assez, mais je voudrais rappeler, et peut-être Emmanuel Razavi voudra nous en dire quelque chose, cet échange absolument incroyable révélé dans ce même livre avec le général De Villiers.
Oui, oui.
Absolument incroyable.
Où il veut littéralement acheter le général De Villiers.
Une tentative de corruption
du
général.
Et il dit, vous achetez mon nom, etc.
Rendez-vous compte. Alors, et ça, pour le coup, ça n'a pas été beaucoup repris dans les médias. Et c'est quelque chose de très grave dans la mesure où ça touche à une fonction assez sacrée. Et ça dit quelque chose quand même de ce président et de comment il considère l'armée. Voilà, c'est incroyable.
L'armée qu'il ne connaît pas parce qu'il fait partie d'une génération qui n'a pas fait en fait l'armée. Et j'irai même plus loin que vous. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais j'irai encore plus loin. Je pense que c'est la façon dont il considère parfois les institutions. C'est-à-dire que on l'a vu évidemment se comporter d'une certaine manière avec le général De Villiers, mais on l'a vu aussi se comporter d'une certaine manière avec la presse, qui est aussi quand même une autre institution. Et c'est assez intéressant ce que racontent d'ailleurs nos deux confrères, c'est qu'ils disent en fait finalement il y a eu énormément en fait de pression de l'Élysée auprès d'un certain nombre de gens pour qu'ils ne témoignent pas en fait auprès des journalistes. Et on sent bien en fait qu'Emmanuel Macron quand même a un rapport très particulier aux institutions, je dirais, quelles qu'elles soient.
Emmanuel, l'institution judiciaire en premier lieu.
Eh bien écoutez, on suivra évidemment tous ces dossiers qui risquent de ressortir au moment de la campagne des présidentielles, même si celle-ci est quand même déjà un peu commencé.
Un peu trop.
Dans quelques instants, notre premier débat, procès des assassins de Mireille Knoll. Les Juifs ont-ils raison d'avoir peur ? Pour le moment, vous êtes 76% à dire oui sur Twitter. Et avec nous, dans quelques instants, on aura Noémie Madard, présidente de l'Union des étudiants juifs de France.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Ala Oukili, Emmanuel Razavi. C'est aujourd'hui que commence le procès de Yassine Mioub et Alex Karim Bacchus, les assassins présumés de Mireille Knoll, qui se renvoient la responsabilité du crime. Un crime aux relents antisémites, comme ceux contre Sarah Halimi, l'école Ozara Torah de Toulouse ou encore l'hypercachère. On arrêtera là cette trop longue liste. Un crime qui a fortement ému, et à juste titre, les Français juifs, qui sont au fil des ans de moins en moins nombreux, puisque leur population en France aurait baissé d'environ 30% ces dernières années. D'où notre premier débat, procès des assassins de Mireille Knoll. Les Juifs ont-ils raison d'avoir peur ? Eh bien, pour le moment, sur Twitter, vous êtes 77,5% à dire oui. Avec nous, Noémie Madard, présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que cette diminution drastique du nombre de Juifs de France, c'est la peur qui l'explique, Noémie Madard ?
C'est notamment la peur qui l'explique, oui, puisque sur ces 20 dernières années, 12 personnes sont mortes parce que juives, ont été assassinées pour la seule raison qu'elles étaient juives. Donc une partie des Juifs français ne se sont sentis plus en sécurité en France et ont décidé, pour notamment cette raison, de quitter la France.
Justement, on va donner la parole aux vraies voix, Philippe Bilger.
Madame la Présidente, bien sûr, j'aimerais répondre, ils ne doivent pas avoir peur. Ils ne doivent pas quitter la France parce qu'évidemment, quittant la France, ils la privent d'une richesse infinie. Mais j'aimerais tout de même vous questionner sur le point suivant. J'ai l'impression que la légitime indignation face à l'antisémitisme et au racisme demeure malheureusement trop souvent, tristement verbale, et que nous ne parvenons pas à mettre en œuvre une politique efficace d'éradication de tous ceux qui sont antisémites et racistes. Et en ce sens-là, le procès qui va advenir est capital, et je ne doute pas que la Cour d'assises saura choisir le bon accusé ou les deux pour les condamner, mais je suis un peu long, j'ai toujours été surpris par ce hiatus entre les bonnes intentions morales et l'effectivité très médiocre de la lutte concrète contre l'antisémitisme.
Je vous rejoins sur la question de la justice. Les lois existent, à la fois les lois Guesso, les lois condamnant les actes racistes et antisémites, mais lorsqu'il s'agit de la justice, nous avons énormément, énormément de difficultés à la fois à faire reconnaître, même par le parquet, ou voire même parfois en amont par la police, le caractère antisémite et racistes des actes que nous venons d'énoncer. Et même le juge, très souvent, refuse de reconnaître ce caractère raciste ou antisémite. Ça a été le cas pour Sarah Lini, où la responsabilité n'a même pas été été reconnue pour l'auteur, mais c'est le cas aussi pour toutes les accusations que nous avons contre des prêcheurs de haine comme Alain Soral ou encore Dieudonné, où la justice a quand même beaucoup de mal à reconnaître le caractère raciste ou antisémite, ou bien, même si elle le reconnaît, à mettre effectivement ces personnages-là hors d'état de nuire.
Alaa Oukili.
Il y a également quelque chose à signaler, c'est que pour que l'on puisse lutter contre un mal, il me semble que nous avons impérativement besoin d'en identifier toutes les sources. Et je vous renvoie donc au dernier livre de Georges Bensoussan, dans lequel il explique que lorsqu'il a essayé de révéler au grand jour un antisémitisme parmi d'autres, mais qui est encore plus virulent que bien d'autres en France, à savoir l'antisémitisme islamique ou arabo-musulman, on le qualifie comme on le veut, il a été persécuté même par des gens qui luttent contre l'antisémitisme, pas que par les antisémites. Et donc, il me semble qu'il y a aussi un problème de diagnostic, même dans les institutions judiciaires, parce qu'on n'est pas formé à reconnaître l'antisémitisme lorsqu'il provient d'une minorité religieuse qui est, comme on a pu le voir tout à l'heure d'ailleurs, quand on a traité notre premier sujet, victimisée dès qu'elle certains de ses membres font preuve de violence à l'égard de citoyens français en raison de leur couleur de peau d'ailleurs, qu'ils soient blancs ou noir, parce qu'il y a un anti, par exemple, parallèlement à l'antisémitisme, il y a également une négrophobie qui se manifeste sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Et on a pu en voir la preuve dernièrement. Rappelez-vous de ce chauffeur Uber qui était en sang et un Algérien qui a traité une femme qui le défendait des pires noms négrophobes. Eh bien, pour l'antisémitisme, c'est le même problème. D'ailleurs, parfois, quand on veut juste en parler, on est traité d'islamophobe, etc. Mais c'est la vérité aujourd'hui. Les banlieues où il y a des communautés majoritairement musulmanes ont vu les juifs partir. Nous parlons aujourd'hui, rendez-vous compte, on parle d'alias internes au sein du territoire français. Des juifs que je connais personnellement s'organisent entre eux pour trouver des moyens financiers pour permettre à des familles pauvres coincées dans certaines banlieues assez chaudes, donc pour pouvoir les aider à aller dans des quartiers où ils ne seront pas visés parce qu'ils portent une kippa ou parce qu'ils ont une étoile de David. Donc oui, il y a un problème de diagnostic et il faut que l'on puisse démocratiser, libérer la parole au sujet de cet antisémitisme et bien sûr focaliser aussi sur les autres.
Noémie Madar, est-ce qu'on n'a pas mis, on va dire, la couverture sur les faits pendant des années ? Comme le dit justement Alaa Oukili.
Je le dirais d'une autre manière, mais en tout cas, dans toute la première partie des années 2000, il y a eu un antisémitisme virulent, notamment lié à l'importation du conflit, que cette importation du conflit a aussi été une des sources de l'antisémitisme dans l'islam radical, et que ces antisémitismes se sont d'une certaine manière croisés, ou en tout cas auto-alimentés, et que dans toute la première partie des années 2000, personne ne voulait voir l'antisémitisme qui grandissait dans certains quartiers de la France. Et c'est ce qui a fait que dans les écoles publiques, eh bien, les élèves juifs sont partis de ces écoles-là et n'y sont jamais retournés. Et aujourd'hui, il est bien impossible de demander à des élèves qui auraient quitté l'école publique, ou bien dont les frères et sœurs auraient quitté l'école publique, ou bien même aujourd'hui, nous sommes une génération après, dont les parents auraient quitté l'école publique, de retourner dans cette école publique, parce qu'il y a un sentiment de peur légitime qui existe face à cet antisémitisme qui vient de l'islam radical, qui vient de l'importation du conflit et qui, dans certains quartiers de France aussi, qui vient de l'extrême droite. Et nous sommes pris en tenaille entre ces trois formes d'antisémitisme, malheureusement, et dénoncer l'un n'empêche pas de dénoncer l'autre. On l'a vu malheureusement de façon très poussée cet été avec les anti-passes sanitaires, et on le voit dans certains quartiers avec un antisémitisme extrêmement virulent et un antisioniste qui parfois et qui souvent aujourd'hui se retrouve également à l'extrême gauche.
Emmanuel Razavi.
part pas ce constat, en fait, une fois de plus, il y a trois sources, de toute façon, d'antisémitisme en France. Il y a évidemment une source d'extrême droite, hein, elle n'est pas nouvelle. Il y a évidemment l'antisémitisme qui est porté, hein, par une partie, en fait, de l'extrême gauche. Alors, au nom, comment dire, de l'antisémitisme, hein, très souvent, c'est un peu le cache-sexe, finalement, en fait, de l'antisémitisme. Mais il y a aussi, depuis trois décennies, Philippe, on en a déjà parlé sur votre antenne, quand même, l'islam radical, l'islamisme des frères musulmans, des salafistes. Qui est de plus en plus présent dans de nombreuses cités en France, pas que d'ailleurs, hein, c'est également vrai pour les frères musulmans dans les universités françaises ou dans des entreprises, et qui sont un vecteur fort en fait d'antisémitisme. Et je pense, pour rebondir sur ce que disait Alain tout à l'heure, qu'à un moment donné, en fait, il faut savoir nommer les choses. Or, bizarrement, en France, on n'ose pas appeler les choses par leur nom. Il est quand même très étonnant, pour moi qui enquête sur le phénomène islamiste, de voir qu'on donne facilement la parole aux islamistes victimes. Je parle des représentants des organisations islamiques de France, hein, très souvent liées aux frères musulmans, mais que sur l'antisémitisme, finalement, les politiques, comme les journalistes, comme la justice, en fait, sont beaucoup moins promptes en fait, à réagir. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, et moi je pense que c'est un vrai sujet, en fait, un vrai sujet de société. Il ne faut pas oublier que les Juifs, compte aussi l'histoire de France. Ils ont contribué à la création de ce pays. On ne peut pas, en fait, aujourd'hui, laisser s'envenimer, en fait, la situation. Ce n'est pas possible, parce que c'est revenir, finalement, aux heures sombres, finalement, de notre histoire. Voilà, moi, ce que je crois. Mais je pense qu'on ne résoudra pas le problème si on ne s'attaque pas à l'une des racines du mal qui est importante, c'est l'islamisme, et l'islamisme porté par les frères musulmans. On en a déjà parlé dans l'une de vos émissions.
Noémie Madar.
Je dirais, au-delà de savoir nommer les choses, c'est qu'aujourd'hui, sur les questions d'antisémitisme, nous avons l'impression qu'il y a de l'antisémitisme. Parfois, ça fait le buzz, parfois, ça fait la une des médias, parfois, on en parle à la radio, comme aujourd'hui. Mais comme s'il n'y avait jamais d'antisémites. Comme si, lorsque les personnes devaient reconnaître qu'elles avaient proféré ou fait des actes antisémites, alors il n'y avait jamais personne. Moi-même, j'ai témoigné l'année dernière au procès Charlie Hebdo hypercachère pour parler des conséquences terribles pour toutes les juives de France et pour tous les étudiants notamment de l'attentat de l'hypercachère. Et en finissant mon témoignage, un des accusés a dit « Mais moi, je suis pas antisémite ». Alors même qu'il était là d'une certaine manière pour ça, alors même qu'on parlait des attentats de l'hypercachère, il y a un accusé qui arrive à dire « Mais moi, je suis pas antisémite ». Comme si, voilà, il y a de l'antisémitisme, mais jamais d'antisémite. Et il est aussi là le problème. C'est bien d'en parler, mais il faut savoir aussi condamner, sanctionner, et puis dire le mal.
Justement, on part au 0826 300 300. Bonsoir Samy.
Bonjour Sud Radio, merci de donner la parole. Et j'aimerais interagir pour répondre à la dame qui parlait auparavant concernant le montée dans l'antisémitisme, la mégrophobie, etc.
C'était Alaa Oukili. On vous écoute.
Voilà. Donc, moi, j'irais juste qu'il faudrait faire un petit peu attention parce que avec la montée des violences actuelles en banlieue et puis il y en a beaucoup, hein, de bien faire attention parce que sinon on va monter les communautés entre elles. Déjà que c'est pas très clair. Alors tu on bien rajoute. Voilà. Après, pour l'antisémitisme, moi, je suis à moitié israélite, donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'antisémites, et de plus en plus. Il suffit que vous travaillez, que vous en sortez un petit peu, vous avez des amis d'origine maghrébine ou africaine qui vous disent, voilà, t'as réussi parce que t'es juif, ceci, cela, et ça, c'est à force, c'est l'antisémitisme, c'est dur, franchement, c'est dur à entendre tous les jours, C'est une sorte de discrimination.
Samy, je vous pose une question. Ça fait combien de temps qu'on vous dit si t'as réussi, c'est parce que t'es juif? Ça fait un an, ça fait 5 ans, ou ça fait 10 ans, ou 20 ans?
J'entends tous les... Franchement, depuis que je suis au collège, j'entends ça.
Oui, mais vous avez quel âge? Parce que le collège, ça peut être il y a 10 ans, ou ça peut être il y a 40 ans, vous savez.
Là, moi, j'ai 38 ans.
Oui, donc le collège, c'était il y a 25 ans, quoi, 25-30 ans.
Ouais, et je travaille très très dur. Je me salis tout le temps dans le travail pour réussir. Et pas arrêter, franchement, à un moment donné, ça devient lourd. C'est aberrant, quoi, de nous coller une étiquette de réussite. par rapport à une origine ou à une... Je comprends pas, en fait.
Alors, merci beaucoup, Samy, de vos témoignages touchants. Noémie Madar, vous entendez Samy qui nous dit, moi, on dit, si t'as réussi, c'est parce que t'es juif. Est-ce que c'est pas vraiment complètement fou qu'on dise encore ça en 2021 ? Et il dit, j'entends ça depuis le collège. Et bon, le collège, ça fait quand même une petite trentaine d'années qu'il l'a quitté.
Oui, bah, c'est malheureusement complètement fou, mais malheureusement une réalité. C'est ce qu'on appelle aussi l'antisémitisme du quotidien. Et vous savez, cet antisémitisme, il vient pas de nulle part. À l'extrême droite, c'est des gens comme Alain Soral ou Dieudonné. À l'extrême gauche, c'est des gens comme Anas Kazib, notamment, qu'il a récemment a fait une vidéo pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, où il mélangeait impérialisme, Pétain, colonialisme, Abdallah, Israël.
Candidat à la présidence.
Oui, candidat
à la présidence.
Sans donc, drapeau même, français.
C'est quand même. Mais par contre, le drapeau palestinien, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est aussi ça la problématique à l'extrême gauche, c'est que tout est mélangé et que ce sont ces discours-là qui imprègnent la société. Donc, il faut aussi traiter du côté des prêcheurs de haine. Il faut à la fois savoir condamner celle qui porte une pancarte qui et savoir condamner Alain Soral. Il faut à la fois savoir condamner des personnes comme Anas Kazib et aussi condamner des syndicats qui, sur les campus, empêchent les étudiants juifs tranquillement de pouvoir dire qu'ils vont en Israël cet été parce que ça devient quasiment un crime de dire qu'on va en Israël pendant l'été.
Philippe Bilger et Noémie Madar, rapidement.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la lutte contre l'antisémitisme est un peu affaiblie par le fait, et vous en êtes la responsable, mais je le dis avec beaucoup de déférence, cette volonté, alors que les années qui viennent de passer démontrent que l'antisémitisme vient de l'islamisme et de l'ultra-gauche, de continuer à cultiver une sorte d'équilibre qui vous contraint à répéter en permanence Soral et qui encore est Dieudonné, alors que c'est infinitésimal par rapport à ceux qui concrètement sont profondément antisémites dans leurs propos et dans leurs actes.
Noémie Madar.
Écoutez, le discours qui dit que l'antisémitisme c'est la faute de ceux qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme, j'ai déjà beaucoup entendu et il me fait... Non, mais bon, voilà, première chose. Deuxième chose, je veux dire, on a quand même passé tout l'été à parler de passe sanitaire, de passe nazitaire, de liste de juifs, de qui. Et c'est pas comme un gâteau qu'il faudrait partager. Alors, est-ce que je lutte plus contre ça ou plus contre ça? Nous sommes à la fois partie civile pour le procès hyper cachère et nous sommes partie civile contre Alain Soral. Nous luttons à la fois dans les classes contre les préjugés qui viennent, qui sont ancestraux et qui viennent de l'extrême droite. Et nous sommes aussi dans les quartiers pour pouvoir lutter contre ceux qui diraient que les sionistes sont les vendus de la terre. Donc, bah voilà, c'est la réalité. Malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il n'y a qu'un seul type d'antisémitisme. Mais malheureusement, sur le terrain, à la fois dans les universités ou ailleurs, eh ben, nous nous rendons compte que l'antisémitisme vient de toutes parts et il faut pouvoir savoir d'où vient le danger pour pouvoir le combattre.
Merci Noémie Madar, présidente de l'Union des étudiants juifs de France, d'avoir été avec nous dans les vraies voix de Sud Radio. Verdict sur Twitter. Procès des assassins de Mireille Knoll. Les juifs ont-ils raison d'avoir peur? Vous êtes 79,3% à dire oui sur Twitter. Ça vous dirait une petite chronique présidentielle pour mettre une ambiance un peu plus légère avec Philippe Rossi? Eh bien, c'est tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Alaa Oukili, Emmanuel Razavi. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Et mon cher Philippe, Anne Hidalgo va-t-elle intégrer dans son programme le droit de vote des étrangers aux élections locales?
Eh bien, en tout cas, c'est ce que lui demande Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Le droit de vote des étrangers aux élections locales, une mesure historique de la gauche au menu de toutes les présidentielles.
Mais ça continue, encore et encore.
Eh oui, bah ça continue. Hein. Olivier Faure veut pousser Hidalgo à reprendre la mesure. Samedi, la maire de Paris, qui tenait son premier grand meeting de campagne à Lille, a détaillé plusieurs propositions. Alors, pour le logement, l'éducation, encore les salaires, mais rien sur le droit de vote des étrangers. Mesure notamment promise par François Hollande en 2012, promise mais pas tenue.
Parole et
Des mots, rien que des mots dans la bouche de François Hollande. Ah si, pardon, en 2015, des journalistes ont questionné François Hollande sur le droit de vote des étrangers. Pourquoi la mesure n'a pas été soumise au Parlement? Je vous rappelle qu'en 2015, on était à la veille des élections municipales. Les journalistes ont posé la question à l'ancien chef de l'État. Écoutez la réponse de François Hollande.
Je n'ai pas soumis ce texte au Parlement parce que je sais d'avance que l'opposition n'en veut pas. Ce texte ne sera pas présenté jusqu'aux élections municipales et après les élections municipales, comme ça il n'y aura pas d'enjeu, il sera soumis au Parlement.
Et devinez quoi, bien le projet n'a même pas été soumis au Parlement. Voilà, je vous rappelle que le droit de vote des étrangers, c'est également une promesse d'un autre François, Mitterrand, en 1981. Deux ans plus tard, face à Yves Mourouzi, François Mitterrand explique que les Français ne sont pas prêts. Nicolas Sarkozy, lui par exemple, a souvent changé d'avis sur le sujet. Hein. Contre en 1997, mais pour en 2005. Attention, de nouveau contre en 2012, lors du débat entre les deux tours de la présidentielle. Bref, et si le droit de vote des étrangers avait vocation à rester une promesse intenable, Philippe.
Mais
Hitler.
Mon cher Philippe, une promesse dans, oui, chez les politiques, c'est une action. Le bonheur des promesses, c'est qu'on n'en pas être tenu. Et je note avec plaisir que il n'y a pas que le sénateur Caner qui a été l'invité de Patrick Roger ce matin à avoir mythifié la réunion de Lille. Paraît-il, il s'est passé des choses extravagantes et Anne Hidalgo a surgi quasiment victorieuse de tout ça. Je suis curieux de voir.
Ouais. Emmanuel Razavi est à la réunion. Agira aussi juste après Emmanuel Razavi.
Alors, je vous ai coupé, enfin, j'ai été coupé quelques secondes, donc je ne vous ai pas.
Sur le droit de vote des étrangers, ça va rester une promesse, non ?
Écoutez, c'est assez récurrent. Enfin, bon, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme on dit finalement. Et je ne crois pas aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que moi, par exemple, qui suis français en Espagne, je peux voter en Espagne, par exemple. Hein, je vous dis.
Oui.
Voilà. Mais en l'occurrence, alors pour les élections locales, hein, en l'occurrence. Mmh.
Bien sûr. Les élections locales. Alaa Oukili, elle va la reprendre cette mesure, Anne Hidalgo.
J'espère pas pour nous, ouais, en fait. Hein. Je vous invite très humblement à regarder les chiffres qui sont parus très récemment de l'Observatoire de l'immigration. Et quand on voit certaines villes où 70% des habitants sont des binationaux, on se demande un petit moment pour les intérêts de qui on va voter dans de grandes métropoles. Ouais. Qu'est-ce que ça engage comme subvention pour des associations qui auraient, qui œuvreraient par exemple plus pour des pays étrangers que pour le pays dans lequel les gens vivent. Non, en fait, j'aimerais juste dire quelque chose. Être français n'est pas un droit de l'homme et en fait, il n'y a aucun problème à ce qu'un étranger et un national n'aient pas les mêmes droits. Mmh. C'est quelque chose de normal et il faut s'y faire. Voilà, il y a les devoirs, les droits et les étrangers ont tout ce dont ils ont besoin en France et ils ne doivent pas demander trop.
Et puis peut-être, juste par esprit de contradiction, peut-être qu'Hidalgo ne reprendra pas la mesure parce que c'est justement Faure qui lui demande. Voilà. Tiens, un dernier mot, enfin deux petits mots, juste pour vous dire que dimanche, Florian Philippot a lancé officiellement sa campagne présidentielle. Alors, c'est passé un peu, même beaucoup inaperçu. Bah oui, hein, Florian Philippot a du mal à exister depuis qu'il a quitté Marine. Mais il est un peu seul en ce moment, Philippot. En tout cas, s'il est élu, il rendra illégal le pass sanitaire. Voilà ce qu'a retenu la presse de son meeting. Et enfin, tout dernier mot, ça va peut-être vous intéresser, Philippe, pour vous dire que selon nos sources, Éric Zemmour pourrait se déclarer candidat le 11 novembre. Quant à son parti, il aurait pour nom, alors ça apparemment ce serait acté, il s'appellerait Vox Populi. Je ne sais pas si vous avez des infos.
Non mais Philippe, vous l'aviez déjà annoncé.
Oui mais ce n'était pas sûr, là apparemment c'est acté. Voilà.
C'est Vox Populi. C'est pour persuader le peuple qu'il aura à apprendre le latin. Quoi.
Et voilà, c'est ça.
Ouais. Aléa Jacta Est, voilà. D'ailleurs comme disaient des proches, Aléa Jacta Est à la gare de l'Est, Aléa Jacta Ouest à Montparnasse aussi. C'était une citation de des proches que j'adore personnellement.
Vous avez une culture.
Vous êtes bien dans les vraies voies sur Sud Radio à 18h30, notre grand débat. Policiers visés dans le quartier de la Duchère à Lyon, la guerre contre la drogue est-elle perdue ? Eh bien écoutez, c'est la majorité des deux tiers. Vous êtes 66,6% à dire oui et 33,4% à dire non sur Twitter. Vous voulez réagir ? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie. On en parlera dans quelques jours d'ailleurs dans les vraies voix. Alaa Oukili, journaliste Sud Radio, et Emmanuel Razavi, directeur de la rédaction de Fil Média et auteur du livre « Grand reporter, confession au cœur des conflits » publié chez Bold. Alors Emmanuel Razavi a été correspondant de guerre, il a été en Afghanistan, il a été sur nombre de théâtres d'opérations et dans son livre, il raconte ses théâtres d'opérations, comment ça se passe d'être grand reporter de guerre au cœur des conflits. C'est un livre absolument passionnant. Ça va aller, Vraie-Voix ?
Très bien.
Toujours aussi bien.
Prêt pour un nouveau tour de table de l'actualité ?
Bien sûr.
Eh bien, c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio.
Et on part loin, comme allait Emmanuel Razavi lorsqu'il était correspondant de guerre avant d'être directeur de la rédaction de Fil Média. Direction le Soudan, ma chère Alaa.
Eh oui, tout à fait. On va très loin dans l'espace, mais également un petit peu dans le temps. Nous sommes à la mi-décembre 2018. Des milliers de citoyens soudanais envahissent les rues de Khartoum et ailleurs. C'est là l'inflation, la pénurie de nourriture, la pénurie d'essence. On ne trouve plus rien à se mettre sous la dent. Et là, les citoyens décident de descendre dans la rue et de manifester. Leur colère va très vite se diriger contre un homme qui s'appelle Omar El-Béchir, celui qui a gouverné ce pays pendant plus de 30 ans suite à un coup d'État. Cet homme est tout de suite, très rapidement, donc démis de ses fonctions par l'armée, qui décide de créer un conseil de transition. Et là, les citoyens ne sont pas dupes. Ils disent non, ils ne rentrent pas chez eux, ils restent dans la rue et ils disent nous ne voulons pas de l'armée, nous sommes assoiffés de démocratie, nous voulons que vous trouviez une autre solution démocratique pour assurer la transition et les élections dans notre pays. Et voilà qu'un conseil de transition composé de civils et de militaires est créé. Nous sommes donc le 11 avril 2019 et ce conseil, finalement, eh bien, on va se rendre compte que c'est de la poudre de perlimpinpin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a mis un civil à la tête du pays, mais que ce sont les militaires qui gèrent tout derrière, qui contrôlent finalement les matières premières, qui contrôlent la nourriture. Et bien sûr, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le Premier ministre dénonce ça, les citoyens le soutiennent, sortent dans la rue. Encore un coup d'État des militaires, puis encore une tentative le 20 septembre 2019. Et malgré tout, le Conseil essaye de travailler. On abolit l'apostasie, on a le droit à la liberté de conscience, on signe les accords d'Abraham, on fait la paix avec les Juifs et on caresse l'éventualité d'une signature de la laïcité au Soudan. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps.
Coup d'État militaire.
Rebelote. Un coup d'État au Soudan. Ce même général qui a décidé que, bon, il va travailler avec les civils, a repris le contrôle. Les citoyens ressortent dans la rue. On est en train de réprimer les protestations dans le sang. Pour l'instant, les manifestants sont blessés. On en dénombre 140. On a déjà 7 morts. Et on est en train de se dire, mais quel dommage. Une révolution qui était partie tellement vite, tellement loin. On a vu des femmes dehors danser. Se soustraire à la tutelle des hommes, demander à porter ce qu'elles veulent, eh bien, tout cela semble bel et bien terminé. Je rappelle que tous les pays ont condamné ce qui est en train de se passer. Les États-Unis retirent une aide de 700 millions d'aides humanitaires tant que la paix n'est pas rétablie, mais que seule pour l'instant, la Russie ne dit rien parce qu'elle a des intérêts dans le pays et ne moufte pas. Voilà, courage aux Soudanais.
Emmanuel Razavi, on a un peu le sentiment, alors en toute mesure, que c'est un peu comme les talibans qui sont revenus en Afghanistan, les femmes sont les grandes perdantes.
Oh, pas que.
Pas que d'ailleurs.
C'est exactement ce que j'étais en train de penser en entendant en fait Alaa. En fait, ce sont les femmes bien sûr qui sont les grandes perdantes. C'est la liberté en général qui est la grande perdante. Mais les femmes. Mais il ne faut pas oublier que le Soudan, c'est quand même un pays qui est en grande souffrance depuis plusieurs décennies. C'est un pays. Vous savez que le Soudan avait accueilli Oussama Ben Laden dans les années 90.
À une époque, absolument.
Voilà, exactement. Jusqu'en 1996, il y a. C'est de là qu'il est parti, en fait, en Afghanistan, invité, hébergé par le régime des talibans. Donc, sans revenir, en fait, sur toute cette histoire-là, il y a quand même, si vous voulez, une réalité, de toute façon, religieuse extrêmement dure, en fait, au Soudan. C'est un pays, en fait, qui ne vit que sous la répression. Il était, malheureusement, on a beaucoup couvert, en fait, avec Shield, le Soudan. Il était.
Ah, il y a
malheureusement.
Un
alors, vous m'entendez, non ?
Ça repasse, oui.
Ah, je vous entends, moi, très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Alors, allez-y, allez-y. Très court.
Voilà, il était évident, en fait, que le Soudan ne s'en sortirait pas, aussi facilement que ça.
Philippe Bilger.
En fait, ce qu'a très bien décrit Alain, on pourrait faire rentrer ça dans l'immense théorie, sans H, bien sûr, des espérances déçues. Ça, on a parlé, évidemment, des talibans. On aurait pu reprendre, même si le registre est différent, la Tunisie. Il y a une multitude de pays d'espérances qui se détruisent, et là, particulièrement, alors que quelque chose se levait qui pouvait montrer qu'en définitive, un progrès allait se réaliser.
Les amis, do you speak English?
Yes, we do.
Very bad. Bon,
ben, il va falloir vraiment parler anglais, parce que c'est de notre débat dans quelques instants, à 18h15. La langue française a été, il n'y a pas d'autre mot, jartée. Oui, 26 voix contre une de la Cour des comptes européenne. Absolument. À la demande des Allemands, d'ailleurs, maintenant, ce sera l'anglais qui sera unique langue utilisée. Plus de traduction. Et on va en parler avec le journaliste Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles, qui a tweeté, ça a été un des seuls à mettre en avant ce scandale, parce que ça me fait penser à une chanson d'un chanteur acadien de Louisiane que j'aime beaucoup, Zachary Richard, ce qu'on lui disait à l'école, « No French, no more », faut plus parler français. Et ben nous, on parle français sur Sud Radio et on défend la langue française. On se retrouve dans quelques instants pour en parler.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Alaa Oukili, Emmanuel Razavi. On écoute
ceci. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents.
Et oui, vous reconnaissez Yves Duteil dans le plus bel hommage chanté à la langue française, et la chose serait passée ni vue ni connue. Si le journaliste Jean Quatremer, correspondant européen de Libération à Bruxelles, n'en avait parlé, quoi me direz-vous, la disparition de la langue française au profit du seul anglais à la Cour des comptes européenne après un vote par 26 voix contre une, celle de la France? On va donc en parler avec lui. Est-ce que finalement le français ne va pas disparaître des institutions européennes? Bonsoir Jean Quatremer.
Bonsoir.
Vous avez également tweeté, je vous cite, « Cette offensive générale pour imposer l'anglais et surtout éradiquer le français est menée par des conservateurs allemands, le secrétaire général du Parti européen Klaus Welle, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président de la Chambre de commerce européenne Klaus Heiner Lehne. Le couple franco-allemand, mon cher Jean Quatremer, c'est la France, la femme battue et trompée ?»
Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce que le français est en recul à Bruxelles? Pour des tas de raisons. D'abord, il faut voir que les principaux responsables, ce sont nos élites. Ce sont les différents gouvernements qui se succèdent au pouvoir depuis les années 90. Je vais vous raconter une anecdote. En 2000, les présidents françaises de l'Union européenne, donc les Français président les réunions de négociation d'élargissement, puisque l'élargissement n'a pas eu lieu, hein, il a eu lieu, vous rappelez, en 2004 seulement. Et Pierre Moscovici, qui était alors ministre des Affaires européennes, ministre socialiste des Affaires européennes, arrive à la première réunion de négociation avec les pays d'Europe de l'Est, notamment avec les pays baltes. Et Pierre Moscovici parle en anglais. À la très grande surprise, d'ailleurs, des Baltes, qui avaient tous appris le français, parce qu'ils pensaient que les Français allaient négocier en français. Et plusieurs années plus tard, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'Estonie, qui m'a dit, c'est très étonnant, parce que quand il a parlé en anglais, on s'est tous dit, les Français se sont mis à l'anglais, pourquoi apprendre le français? Et ça, je peux vous dire que c'est permanent ici à Bruxelles. Sauf le représentant permanent, c'est-à-dire l'ambassadeur de France auprès de l'Union européenne, tous les élites parlent en anglais. Par exemple, vous avez le président de la commission, juste je vous une petite anecdote, Pascal Canfin, qui est président de la commission du Parlement européen, la commission environnement du Parlement européen, il fait toutes ses interventions alors qu'il y a l'interprétation disponible en anglais uniquement. Alors qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas persuader les autres de parler notre langue si nous-mêmes, nous appliquons notre langue.
On va faire parler les vraies voix. Je me rappelle quand même que Pierre Moscovici avait écrit une lettre à Michel Sapin, qui était ministre quand il était commissaire européen, en anglais, ce qui est absolument grotesque. C'est comme si nous, les vraies voix, se parlaient en anglais. Philippe Bilger.
Jean Quatremer, ça n'est pas la première fois que j'admire votre liberté intellectuelle et votre vigilance sur certains sujets. Vous avez totalement raison. Est-ce que on ne pourrait pas soutenir que, évidemment, dans la France elle-même, le délitement de la langue française est déjà la cause initiale du peu de crédit que les pouvoirs français accordent à la langue. Et ensuite, est-ce que vous ne pensez pas que ces politiques français qui sont d'une insigne lâcheté, en définitive, pour défendre leur langue, ne sont pas complètement gangrenées par l'idée que la France n'a plus de poids politique ?
Jean Quatremer.
Alors, c'est une question un peu philosophique que vous me posez, mais je dirais qu'il y a une tentation permanente des élites en France de parler une langue que le peuple ne comprend pas. C'est pas nouveau. Il y a la langue, pendant tout un temps, on parlait le latin, par exemple. Ensuite, la langue d'administration est devenue le français, qui était une langue qui n'était pas parlée par la quasi-totalité des Français. Je vous rappelle quand même que le français est devenu la langue majoritairement parlée à la maison dans les années 20, après la Première Guerre mondiale. Avant, on parlait des langues locales. Il y avait 32 langues locales en France, on l'a oublié. La langue juridique, vous la connaissez parfaitement, franchement, j'ai été juriste moi-même pendant 10 ans. Je veux dire que lorsque vous lisez un jugement, si vous le comprenez du premier coup, si vous n'avez pas fait 10 ans de droit, c'est que vous êtes juste un génie. Je veux dire, l'administration, véritablement, les élites aiment parler des langues, un langage que personne ne comprend. Pourquoi est-ce que des Zemmour ou des Le Pen ont du succès ? Oui, parce qu'on les comprend. Absolument. C'est tout simplement ça.
Ah ben c'est sûr qu'ils disent pas dire Michel, dire Pierre. Là où
je l'avoue également d'ailleurs, je me souviens avoir lu que ça avait aussi marché pour Sarkozy parce qu'il employait en moyenne 700 mots. Et puis quand on regarde par exemple Bruno Retailleau est à plus de 1600 mots et c'est totalement un petit peu parfois trop incompréhensible. Ce que je voulais dire, cher Jean Quatremer, c'est quand même ballot alors que la France prend la présidence de l'Europe l'année prochaine. Le président de la République aurait pu s'exprimer en français pendant tout son mandat. Et j'en suis à me demander si ça ne tombait pas à pic, mais je ne voudrais pas sonner très complotiste.
Votre question est too much. Jean Quatremer.
Non mais je veux dire que ceux qui nous gouvernent, ceux qui négocient à l'international parlent des langues étrangères. Moi je trouve ça très bien, ça aide, c'est de l'huile dans les rouages et il faut parler les langues étrangères. Moi je suis pour le multilinguisme à Bruxelles, comme disait très bien Umberto Eco, le célèbre écrivain italien, la langue de l'Europe c'est la traduction. Est-ce que vous imaginez Dante écrire en anglais, enfin plutôt en globish, c'est ce qu'on parle ici? Évidemment pas. Donc voilà, c'est chacun doit parler sa langue. Je remarque d'ailleurs que parler la langue de l'autre, c'est extrêmement dangereux dans une négociation, parce qu'on on donne un avantage décisif à la personne avec qui Absolument. On négocie. Moi, j'ai déjà parlé, lorsque vous parlez avec des Américains ou des Anglais, par exemple,
oui.
Jamais, au moment où on rentre dans le dur de la négociation, ils ne parleront une autre langue que la leur. Jamais, jamais, jamais. Alors que moi, j'ai vu des Français négocier en anglais alors qu'ils ne comprenaient pas. Enfin, je ne comprenais pas toutes les subtilités, toutes les références de la langue. Philippe Millier, par exemple, il est juriste. Vous savez très bien que le droit anglo-saxon n'a pas grand-chose à voir avec le droit continental, que nos concepts ne sont pas ceux des anglo-saxons. Et donc, si on négocie dans la langue anglaise, évidemment qu'on ne va pas comprendre forcément ce que l'on négocie. On peut très bien se mettre d'accord sur un texte, et puis chacun a compris différemment. Donc, encore une fois, que l'on parle les langues, oui, qu'on s'exprime dans les langues étrangères, oui, je trouve ça très bien. Quand Emmanuel Macron va en Angleterre, qui parle anglais, quand il va en Allemagne, s'il pouvait parler allemand, qui parle allemand, je trouve ça très bien. Mais s'il ne parle pas la langue du pays d'accueil, il doit parler en français. Moi, j'avais été extrêmement choqué lorsqu'Emmanuel Macron avait été faire un discours en tant que candidat en 2017 à Berlin. Il avait fait son discours en anglais. Vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, en plus, c'est très, très insultant pour les Allemands. Donc là, on parle sa propre langue.
Excusez-moi, il n'a même pas mis de secrétaire d'État à la francophonie. Emmanuel Razavi, vous qui vivez à Barcelone, vous voyez le déclin du français?
Ah oui, mais ça, c'est une réalité, écoutez, Philippe. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà, si vous voulez, de l'institution en fait, européenne, la langue, c'est d'abord un outil d'influence qui sert au rayonnement d'un pays, de sa culture. Et depuis 15 ans, on peut constater quand même que ceux qui nous dirigent n'ont pas su, ou plus voulu en tout cas, investir suffisamment en fait sur la langue et sur la culture française à l'étranger. Il y a un symbole Et vous me parliez de l'Espagne à l'instant, ben, il y a un symbole, c'est l'Institut français de Valence qui a fermé il y a quelques mois. Il avait quelques milliers d'euros, si vous voulez, de dettes. En fait, partout, les instituts français sont dotés de moins de moyens depuis quelques années. Et évidemment, en fait, ça s'accompagne d'un recul du français, d'un recul donc du rayonnement de la culture française.
Jean Quatremer, vous entendez ce que nous dit Emmanuel Razavi, grand reporter et directeur de la rédaction de Filmédia. Lui, il nous parle de Barcelone, vous êtes à Bruxelles. C'est quand même fou, parce que ce sont nos élites qui abandonnent la langue française. Les Québécois doivent être vent debout, là.
Absolument. En tous les cas, au Québec, on a énormément de mal à comprendre ce que l'on fait. Je veux dire que, voir même des affichages publicitaires uniquement en anglais, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'on s'imagine ? Je veux dire, il faudrait que tous ces publicitaires, tous ces agents de communication, etc., voyagent à travers la France pour se rendre compte que personne ne parle anglais.
Et ne comprend les slogans, Allemagne. D'ailleurs.
Oui, pardon ?
Et ne comprend les slogans publicitaires.
Absolument. Mais quand vous allez en Allemagne, c'est la même chose. En dehors des très grandes villes, personne ne parle anglais. C'est-à-dire que nous sommes dans un ensemble de 450 millions d'Européens. Et sur ces 450 millions, il y en a 1% maintenant que les Britanniques sont partis, 1% qui ont l'anglais pour langue natale, qui la parlent à la maison. Et seuls ces 1% maîtrisent totalement les subtilités de cette langue. Alors, si on dit oui, mais il faut pouvoir communiquer, mais on a tous les instruments en notre possession pour pouvoir communiquer. Ça s'appelle l'interprétation, la traduction, et en plus, on va, grâce à l'intelligence artificielle, et on le constate tous les jours, pouvoir traduire quasiment automatiquement ce que l'on dit, même sans avoir recours à des interprètes ou à des traducteurs.
Jean Quatremer, une dernière question. On ne va pas vous obliger à vous rebaptiser John Forces, comme vous êtes Jean Quatremer, ça va?
Écoutez, moi, je préfère qu'on m'appelle par mon nom grec, qui est Ioannis Tetratalassios.
C'est magnifique.
Tetratalassios, terminé par du grec, voilà une bonne thérapie. Merci beaucoup, Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles. On défend le français sur Sud Radio et on en est fiers. Tout de suite, notre grand débat. Policiers visés dans le quartier de la Duchère à Lyon, la guerre contre la drogue est-elle perdue ? Vous êtes désormais 66,9% à dire oui, et on va en parler. Il est avec nous, avec Christophe Crépin, porte-parole du syndicat Propolis.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger à Laoukili et Emmanuel Razavi. En intervenant hier soir sur un point de deal dans le quartier de la Duchère à Lyon, les policiers de la BAC ont été pris pour cible par des tirs d'armes à feu. Le quartier a été bouclé. Le préfet de région Pascal Maillot et le maire de Lyon Grégory Doucet se sont rendus sur place. D'ailleurs, selon le préfet de région, je le cite, on est dans un lieu de deal très fort et incontestablement, c'est en lien avec des actions qui ont lieu ces derniers jours. Les actions que nous menons pour pilonner les lieux de deal, produisent des effets et incontestablement, il y a des réactions qui sont graves. Ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a taclé le maire de Lyon qui n'a pas voulu installer 2 caméras de vidéosurveillance alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes proposait de les prendre à sa charge a priori. La guerre contre la drogue est-elle perdue ? Eh bien, vous êtes pour le moment très largement majoritaire. C'est la majorité des 2/3, 67,3% à dire oui. Avec nous, Christophe Crépin, porte-parole du syndicat Propolis. Bonsoir.
Bonsoir.
Manifestement, les trafiquants sont prêts à tout, y compris à tuer, pour garder leur point de deal.
En effet, c'est exactement ça ce qui se passe en France actuellement. Il y a des territoires où le trafic qui est généré provoque évidemment des homicides, des guet-apens, et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer leurs concurrents, ils sont même prêts à tuer mes collègues, et ils sont aussi prêts à tuer des personnes qui viennent juste pour passer et qui sont des habitants normaux de ces genres de banlieues.
Philippe Bilger, c'est vrai que maintenant, on ne réfléchit même pas, on tire à l'arme à feu.
Mais je ne voudrais pas discuter le bien fondé de la question de Sud Radio, mais moi, je déconnecterais ces agressions scandaleuses contre la police de la drogue. Il y a de toute manière une évolution déplorable depuis des années des voyous à l'égard de la police. J'ai connu, comme d'autres, une époque où, bien sûr, on résistait à la police. On ne voulait pas se laisser interpeller. La plupart des honnêtes gens ne discutaient pas. Mais depuis quelque temps, évidemment, on l'attaque, la police. On lui résiste, on lui tend des guet-apens. Et donc, je ne crois pas que la drogue soit le ressort exclusif d'une dégradation profonde du tissu démocratique.
Vous êtes d'accord avec ça, Christophe Crépin ? Il n'y a pas que la drogue comme problème dans ces quartiers-là et qu'aujourd'hui, tout le monde peut tirer à l'arme à feu, voire à l'arme lourde sur les agents des forces de l'ordre ?
L'analyse de Philippe est tout à fait exacte. Néanmoins, ce qui fait le nerf de la guerre, c'est quand même l'approvisionnement de produits stupéfiants dans ces banlieues et les gens qui en vivent et les gens qui ont monté une industrie tout autour de ce genre de choses qui fait qu'ils sont prêts à défendre leur territoire bec et ongle et n'ont plus aucune déontologie et ils n'hésitent pas à tirer sur les collègues, sur tous les représentants de la force publique et ils n'hésitent pas non plus à tuer les gens qui habitent et même à faire des gens qui habitent, des gens qui vont devoir abriter leurs stupéfiants. On est dans une vision du monde telle qu'on n'aurait jamais voulu la voir. Aujourd'hui, en effet, la guerre n'est pas perdue. C'est peut-être la méthodologie qui ferait peut-être qu'on reparle tout à l'heure. Mais la guerre, moi, je ne pense pas qu'elle est perdue. Et je pense que l'analyse de Philippe est très bonne.
Alaa Oukili.
Je voudrais appuyer les propos de Philippe qui dit qu'il faut décorréler justement les stupéfiants de la violence et le trafic de drogue des violences en général, et notamment contre la police. Je rappellerai donc que en milieu d'année de cette année, excusez-moi, la Cour des comptes a fait une déclaration assez extraordinaire dans laquelle elle admet qu'il est impossible aujourd'hui d'évaluer le montant de l'argent investi dans les banlieues. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que le quartier de la Duchère, quand même, un argent incroyable a été mis dedans. C'était un quartier, mais vraiment infréquentable. Et pendant que je vivais à Lyon, j'ai pu constater le changement extraordinaire. On a rasé des bâtiments, on a mis à disposition des locaux pour des associations, des terrains, etc. Et finalement, on se rend compte que tout revient, que ça ne change rien. Je voudrais donc dire quelque chose, et c'est une supposition, mais je m'appuie sur un témoignage intéressant. J'ai un ami qui était adjoint donc à la mairie, à une mairie, adjoint à l'urbanisme. Il avait rasé une cité où il y avait énormément de problèmes, et on lui a dit, en fait, qu'on ne pouvait pas organiser la relocalisation et le relogement des personnes qui y vivaient dans les mairies voisines, parce que c'était des mairies de droite, et elles ont dit, eh bien nous, on ne veut pas de ces gens-là. Et je mets bien les guillemets. Finalement, qu'est-ce qui a été fait ? On a rasé une cité, on a tout rénové et on a remis exactement les mêmes personnes avec les mêmes profils, toujours dans l'entre-soi, dans cette même cité, et ça a fini par réexploser. Donc, quelle est la solution ? Où est vraiment le problème ? Au-delà donc de la drogue et de l'argent qui manque et du délabrement.
Christophe Crépin.
Vous touchez du doigt le vrai problème, hein. Ce n'est pas que la police, ce n'est pas que les magistrats, c'est tout un tas d'acteurs qui viennent se greffer autour. Il faut qu'on réfléchisse vraiment à une autre façon de voir la société telle qu'elle doit être effectuée. Et moi je pense qu'en effet, le stupéfiant est la gangrène de notre pays, en effet. Et donc pour ça, je pense qu'il faut réfléchir par le voie d'un référendum de savoir si oui ou non on doit légaliser ou pas le stupéfiant. Et en contrôler la distribution et aussi les bénéfices. Comme ça, peut-être.
Comme le tabac.
Exactement la même chose que le tabac. Et comme ça, peut-être que, avec les profits générés, on pourrait peut-être faire baisser un petit peu le prix du carburant, éventuellement.
Emmanuel Razavi.
Alors, moi, j'ai deux choses, hein. Je voudrais d'abord rappeler, hein, que selon l'Association d'Initiative Mondiale contre le Crime Organisé, la France serait le premier pays d'Europe occidentale en matière de crime organisé. L'étude, en fait, elle vise spécifiquement, Philippe, les gangs de banlieue en France. Donc, évidemment, ceux qui ont la main mise sur le deal de drogue. Donc, c'est un vrai problème, la drogue, en l'occurrence. Après, sur les solutions, vous savez, alors, je vais reparler de l'Espagne à nouveau, mais aujourd'hui, un dealer, en fait, de drogue en Espagne, il peut être accusé de financement de terrorisme. Les juges antiterroristes ont réussi à faire passer, en fait, cette réglementation-là. Ils assurent que ça en fait réfléchir certains à deux fois. Mais oui, bien sûr. Donc, je ne dis pas que c'est la solution, la seule et unique solution, mais c'est peut-être une des pistes. Moi, je me suis entretenu avec des magistrats antiterroristes français qui aimeraient, en fait, que le modèle espagnol soit suivi. Je ne crois pas que dans son ensemble aujourd'hui, le syndicat de la magistrature y soit favorable. Il n'empêche que
C'est un vrai fléau, alors tant en Espagne qu'en France évidemment, et quand on fait la corrélation, quand on fait le lien plus exactement entre le financement du terrorisme, je rappelle par exemple qu'Al-Qaïda, depuis son origine, depuis sa création, c'est essentiellement financé grâce à l'argent en fait de l'héroïne, de l'opium, de l'héroïne,
d'Afghanistan etc. notamment.
Alors, d'Afghanistan notamment, mais vous avez plein de groupes terroristes aujourd'hui, de toute façon, même ceux, en fait, qui sont issus, si vous voulez, en fait, d'Afrique du Nord, du Maghreb, de toute façon, qui se financent aussi, parfois, par le biais, en fait, des stupéfiants, mais des drogues, ce qu'on appelle les drogues douces. Donc, je trouve que cette idée qu'ont eu les Espagnols, en fait, n'est pas, n'est pas idiote. Maintenant, ce que je crains, moi, c'est qu'on parle beaucoup et qu'on ne fasse pas grand-chose. Vous savez, je me souviens qu'il y a 25 ans déjà, donc à la fin des années 90, je courais un reportage sur les unités de la BAC dans une ville de province française, c'était Dijon, pour ne pas la nommer, le quartier, c'était le quartier des Grilles. À l'époque, oui. Je me souviens que les policiers se prenaient déjà des parpaings, même des frigos, voire des scooters qui leur étaient lancés sur leurs véhicules, du toit des immeubles de certains de ces quartiers chauds de l'agglomération. À l'époque, ces mêmes policiers, qui étaient des gens exemplaires, je m'en souviens, lorsqu'ils arrêtaient des petits dealers, même pris sur le fait, avec des barres de shit sur eux, avec de l'argent liquide, très souvent, en fait, ils les arrêtaient même pas. Et lorsqu'on leur demandait, nous, journalistes, pourquoi finalement ils les laissaient repartir, ils nous disaient, de toute façon, ils vont rester 2 heures au poste, ils vont être relâchés, donc autant qu'on les laisse repartir tout de suite, qu'on ne perde pas de temps en administratif. Et donc, quand même, ce problème, qui est récurrent depuis pas loin de 30 ans, finalement, il n'y a aucun ministre de l'Intérieur qui n'a été capable, aucun gouvernement, n'a été capable de le régler.
Christophe Crépin, on entend Emmanuel Razavi, c'est vrai que c'est terrifiant parce qu'on se dit finalement, les ministres de l'Intérieur servent à rouler les mécaniques, mais ça s'arrête très rapidement. On se rappelle Pasqua, terroriser les terroristes, etc. C'est vraiment des roulements de tambour, mais action, zéro.
Une politique comme ça, pour qu'elle soit mise en place, elle doit se faire sur au moins 10 ans. Et donc, en fait, il faut avoir une vision sur 10 ans, il faut prendre des décisions sur 10 ans, et aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur sont tellement peu présents, ils restent tellement peu, qu'ils font au coup par coup, en fait, ils gèrent l'urgence. Ils sont à la tête d'un navire qui sombre tout doucement, et puis ils essayent de faire ce qu'ils peuvent.
Philippe Bilger.
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a proposé Christophe tout à l'heure sur le référendum, sur la légalisation de la drogue, parce que je crois profondément que l'ampleur du trafic de drogue est la conséquence d'une société qui ne sait plus faire respecter sa police et, d'une certaine manière, assurer l'ordre. Premier point. Et je crois profondément, et il y a eu des ministres de l'Intérieur, Philippe, vous l'avez dit, qui étaient certainement de bonne volonté, mais je crois, au risque de choquer notre ami Christophe, que on ne pourra jamais éradiquer le fléau qui se dégrade, qui s'amplifie, les attaques scandaleuses contre les policiers, si on ne change pas profondément le registre policier et judiciaire. Lorsqu'on a un état de droit comme le nôtre, si lent, si peu structuré, si peu efficace, eh bien, on aura aucune possibilité de gagner la guerre. Il faut radicalement, là je sais que je vais heurter, changer le logiciel de l'état de droit. Il faudrait qu'au moins, par certains côtés, il intègre l'exigence de l'incontestable et de l'urgent. Et vous parliez tout à l'heure, Philippe, à juste titre, du film Bac Nord. Il faut bien voir ce que démontre le film Bac Nord. Il démontre que si on veut reconquérir les cités, eh bien, il faudra, c'est une tâche immense et il faudra que les policiers aient des outils qui soient radicalement nouveaux par rapport à aujourd'hui.
Christophe Crépin, c'est vrai que quand on voit Bac Nord, on se dit que la guerre est perdue.
Alors non, alors déjà je voulais dire que moi je ne suis pas du tout choqué, Philippe a son avis et je le respecte.
Parlons
moi
vrai.
J'ai travaillé, voilà exactement, c'est pour ça que je viens sur votre antenne, moi j'ai travaillé sur la dépénalisation, donc moi je suis convaincu qu'on peut essayer de faire quelque chose, mais toujours dans le suffrage universel, avec un référendum, parce qu'en fait ça gangrène toute la France et tous les départements d'outre-mer. Donc c'est ce que je pense moi personnellement, mais je respecte
mais
votre vision Philippe.
Pardon,
dans le micro Philippe Bilger.
Pardon, c'est que imaginons qu'on fasse ce que vous souhaitez, vous imaginez que le trafic aura cessé ?
Alors, je suis persuadé qu'il y aura deux choses qui va générer, mais nous, on sera en mesure de contrôler l'approvisionnement, de contrôler les filières et aussi de contrôler les bénéfices. Et donc, forcément, c'est un peu comme la prohibition, c'est ce que j'ai sur ce que j'ai travaillé. En fait, on aurait moins de prohibition et on pourrait lutter efficacement contre cette gangrène dans les banlieues qui il n'y a pas que Lyon, là on parle de Lyon, mais Marseille est devenu compliqué.
Partout. Et Toulouse, Paris, Nice.
Et concernant mes collègues, que j'adresse toutes mes félicitations de la BAC de Marseille, vous voyez bien les conditions de travail de mes collègues, comment ils essayent de faire leur travail, tout ça parce qu'ils sont soumis à une pression hiérarchique du chiffre qui ne les assume pas, et ça c'est bien montré dans le film, et moi je vous dis non, c'est pas perdu, tant que vous aurez des policiers comme moi et comme tous mes collègues qui sont sur le terrain, des policiers républicains, on sera là pour tenir la barre.
Alaa Oukili.
Il me semble qu'il y a malgré tout un angle mort dans la stratégie qui consiste à dépénaliser le cannabis. Si Philippe Bilger vient de rappeler qu'on n'est pas certain que le trafic s'arrêtera quand bien même on légaliserait donc le cannabis, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire de ces milliers de délinquants, de trafiquants de drogue ?
Et bien, on va les mettre au travail, madame.
Est-ce que vous pensez que parce que vous allez leur enlever la drogue, ils ne trouveront pas... Est-ce qu'on va après, par exemple, légaliser le trafic de la cocaïne ou le trafic de l'achat de Kalachnikov ? Parce que je vous rappelle que dans les caves de ces gens, on trouve aujourd'hui des armes de guerre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que parfois, on évoque l'idée de faire intervenir les militaires dans la mesure où les policiers sont parfois amenés à acheter leurs propres outils de équipement de protection de leurs propres poches. Donc, est-ce qu'on va après légaliser l'opium ? Non, ce n'est pour moi une solution à long terme et il y a beaucoup d'angles morts.
Je savais que ça allait choquer un petit peu ma proposition.
Pardonnez-moi, je ne suis pas choquée. La légalisation du cannabis, philosophiquement, ça ne m'étonne absolument pas. Hein. Puis pourquoi pas ? Après tout, on peut dire que le vin,
Vous me demandez ce qu'est-ce
qu'on a beau tourner ça dans tous les sens, Christophe, c'est une défaite.
Pour lutter contre le trafic,
bien sûr que c'est une défaite.
Je ne vois pas ce que ça va changer.
Moi, j'apporte modestement ma pierre en essayant de faire avancer le débat. Mais je sais très bien. Et vous me dites, qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes gens ? Ben, c'est pas dur, ils vont aller au travail.
Je sors
d'un colloque où des restaurateurs me disaient « Christophe, on ne trouve plus de personnel pour venir travailler. »
Mais ils ne veulent pas gagner le SMIC et faire la plombe.
Mais moi, madame, je gagne le SMIC et je suis policier.
Mais
c'est la grosse différence.
Et mes collègues, ils sont au SMIC. Ils sont caillassés.
Mais ils ne veulent pas. Ils veulent aller plus loin.
Mais moi aussi, j'aurais tellement voulu de choses. Mais l'administration m'a expliqué comment faire pour s'en passer.
Non, mais c'est la grande différence entre la moralité et l'immoralité, Christophe.
Enfin, moi, j'essaie de lutter autant que faire se peut qu'on ait une société qui tienne et qui soit cohérente. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Mais en fait, je suis d'accord que ça vous short un petit peu. Mais moi, j'essaie d'apporter une solution parce que depuis 80, il le dit, et depuis les violences, elles ne font que croître et les bandes organisées. Et puis, on a affaire à des gens qui sont sanguinaires, qui sont sans foi ni loi. On va tuer des gamins, on va tuer des gens qui passent. Justement. Moi, j'ai vu à Colombe, à deux portes d'ici, des gens qui faisaient la cuisine, ils ont reçu des balles dans leur dressing.
Mais oui. Ah oui, enfin, mais voilà. Vous confirmez ce que je dis.
Bien sûr,
gens qui sont sans foi ni loi n'iront pas faire la plonge, n'iront pas faire les coiffeurs.
Ils vont peut-être être obligés de s'adapter quand même.
Vous croyez, Christophe ? Franchement, vous êtes un humaniste naïf. Hein.
Moi, je pense qu'ils vont se mettre au travail, ça fera du bien à la société.
Et Emmanuel Razavi, en Espagne, où le cannabis est quand même en vente libre, c'est un pays où vous vivez, est-ce qu'on a les mêmes problèmes de zones de non-droit, etc. ?
Bien sûr, en fait, si vous voulez, en Espagne, aujourd'hui, vous avez en fait des clubs, ce qu'on appelle des clubs, en fait des associations où vous pouvez aller consommer, vous aller boire un coup et consommer une drogue douce, voilà, donc vous achetez ça de façon tout à fait légale. Ça n'a pas endigué le phénomène, ça n'a pas du tout endigué le phénomène, si vous voulez, des filières parallèles. Les gangs sont présents, alors ils n'ont pas forcément la même origine, hein. Les gangs qu'on a ici, très souvent, ils viennent en fait d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, mais de facto, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Et la violence dans certains quartiers, dans certaines zones, hein. Alors c'est aussi vrai dans le nord de l'Espagne que dans le sud de l'Espagne, elle est bien réelle. Et je crois qu'Alaa a raison, hein. Je suis désolé de le dire, mais je pense vraiment que vous avez raison, Alaa, sur un point, c'est que ces jeunes-là, et je comprends tout à fait la démarche de Christophe, parallèlement, mais ces jeunes-là, vous n'allez pas les mettre au travail. Ces jeunes-là, vous comprenez bien qu'ils ont l'habitude de gagner des milliers d'euros, non pas par mois, par jour, parfois, en vendant cette drogue, d'accord ?
Sans payer d'impôts.
Sans rien payer, évidemment.
Ils ne cotisent pas pour leur retraite, par contre.
Voilà, alors je pense que la solution, elle est tout autre. Je vous parlais tout à l'heure, en fait, de ce qui s'est passé en Espagne, c'est que face à ça, effectivement, ils ont considéré que vendre illégalement de la drogue, c'était contribuer au financement du terrorisme. Ça, c'est une piste. Mais pour la France aussi, ce qui est important, c'est aussi peut-être simplement de revenir à la violence légitime de l'État. Aujourd'hui, oui. Les policiers n'ont plus le droit d'exercer la violence légitime. Ils auraient normalement, en fait, bien sûr, la force. Le vrai problème, il est là, il faut commencer par là. Et puis, ces jeunes se demandaient ce qu'ils vont devenir. Moi, je crois beaucoup à la deuxième chance. Ceux qui veulent, qui acceptent de se réinsérer, pourquoi pas. Mais en attendant, les voyous, excusez-moi, ont construit des prisons pour faire ça. Parce qu'autrement, vous ne vous en sortirez pas. Et encore une fois, moi, en tant que journaliste, pour ce que j'ai vu, en fait, des cités dans lesquelles j'ai enquêté, la violence, elle est réelle. Vous avez rappelé tout à l'heure, Philippe, j'avais couvert quelques zones de guerre depuis 20 ans, n'est-ce pas, notamment au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Asie centrale. Je vous assure qu'on peut parfois voir, et je pense que Christophe ne me contredira pas, dans certaines cités françaises, des scènes qui sont des scènes de guerre.
Rien alors, de envier à ce que j'ai pu voir durant mes années de reportage. On va faire réagir Christophe Crépin rapidement.
Si, moi j'étais un des premiers à dire qu'on vivait des scènes de guérilla urbaine, et moi je vous dis vraiment, mes collègues, ils sont en état de guerre. Vraiment, quand ils s'équipent pour aller maintenant faire le travail en service général, ils ont même des... Enfin, c'est devenu normal d'avoir un gilet pare-balles, d'avoir une arme qui soit en capacité de répondre à ce qu'on a en face, et on est vraiment dans une guérilla urbaine où on essaye de lutter un petit peu contre tous ces trafics. Et moi, je suis intimement persuadé que la drogue fait partie des fléaux qui gangrènent notre société. Ça, j'en suis intimement persuadé. Mais alors moi, je propose gentiment ce genre de choses, mais je pense que ça doit faire l'objet d'un référendum.
Merci beaucoup, Christophe Crépin, porte-parole du syndicat Propolis. Verdict sur Twitter. Policiers visés dans le quartier de la Duchère à Lyon, la guerre contre la drogue est-elle perdue? Vous êtes désormais 68,3% à dire oui. Dans quelques instants, on parlait de Lyon. On va aller à Strasbourg avec un coiffeur. Ben, écoutez bien ça.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Alaa Oukili, Emmanuel Razavi et mon cher Philippe Rossi, ça me fait rire. Face à la pénurie de coiffeurs, le propriétaire d'un salon de coiffure innove.
Et oui, alors qu'en France, il y a à peu près 10 000 postes à pourvoir dans le secteur de la coiffure, évidemment, et que les patrons peinent à recruter des coiffeurs, eh bien Paul John, un coiffeur strasbourgeois, a décidé de bousculer ses habitudes et de fermer son salon le samedi. C'est vrai que c'est extrêmement rare. Résultat, eh bien ça a payé, il a réussi à embaucher. Et cerise sur le gâteau, depuis son salon affiche complet. Bonsoir Paul John.
Bonsoir, alors c'est John Paul. Hein,
John Paul, pardon, excusez-moi.
C'est pas bien grave.
Bon, okay. John Paul, dites-moi, alors racontez-nous, vous êtes à peu près, je vous ai vu partout hein, ces deux derniers jours, et effectivement c'est assez incroyable. Racontez-nous tout d'abord, c'est si compliqué que ça en ce moment de trouver un coiffeur?
Écoutez, c'est vraiment très très compliqué. Depuis déjà bien avant le confinement, toute la profession avait déjà beaucoup de mal à recruter. On avait beaucoup de d'offres. Hein. On n'avait pas de demande, plus rien du tout.
Dû à la crise sanitaire essentiellement ou pas que?
Alors, bien avant la crise sanitaire, ouais. Et après la crise sanitaire, alors là, ça a été vraiment la catastrophe. On trouvait plus personne, les coiffeuses bifurquaient, changeaient de métier, puisqu'ils n'avaient plus leur week-end, ils n'avaient plus de vie de famille, alors qu'ils avaient pris l'habitude pendant le confinement.
Ouais. Alors, c'est vrai que les coiffeurs, c'est ça, hein, c'est les horaires, c'est pas la semaine et la famille le samedi et le dimanche. Malheureusement, en général, c'est fermeture le lundi et on bosse le samedi.
Bah, ça, c'est des habitudes. Ouais. C'est des habitudes qu'on a eues. Donc, moi, j'ai cassé ces habitudes. Et à partir de là, je trouve une équipe qui est bienveillante, qui est amoureuse du métier à nouveau, qui se sent reposée, qui sont en famille. Ils sont vraiment en famille entre eux. À partir de là, c'est vrai que ça a remotivé.
Dès que vous avez opté pour une fermeture du salon samedi, bah, vous avez reçu des candidatures et une candidature spontanée.
Alors, pas une,
plusieurs.
On est déjà à 10 candidatures
pour
l'année.
Ah oui,
et puis je vais pousser le bouchon. Actuellement, et c'est vrai que ça va faire un petit peu grincer des dents, mais on a actuellement même des personnes qui veulent démissionner de leur poste pour venir travailler chez moi.
Ah oui, il va falloir agrandir votre salon, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Alors, vous avez augmenté les horaires de la semaine, non?
Alors, et effectivement, on s'est pas arrêté à l'ouverture du lundi. On fait maintenant aussi un nocturne le jeudi pour pouvoir bien étaler et puis pour prendre le maximum aussi de clients qui veulent venir chez moi, évidemment.
Alors, par exemple, voilà, quand vous avez opté pour une fermeture le samedi, une coiffeuse Laetitia qui a rejoint votre équipe en mai dernier, elle, c'était une candidature spontanée. Dès qu'elle a su que vous fermiez le samedi, elle a candidaté?
Alors, oui, tout à fait. Elle l'a remarqué. Elle l'a vu, je pense, sur Google ou elle l'a vu sur mon site qu'on avait le vrai week-end, et elle avait même arrêté la profession auparavant, et elle l'a repris chez moi, et puis elle est vraiment très heureuse chez moi.
Alors vos nouveaux horaires plaisent, bon, aux salariés évidemment, mais aux clients aussi. Parce que ça se bouscule dans votre salon depuis.
Ça se bouscule déjà avant.
Ah bon, oui.
Oui, ça se bousculait déjà. Là, ça a été vraiment aussi une façon de vivre différemment. On a essayé de conjuguer tout simplement une vie privée et une vie professionnelle.
Alors, j'allais vous dire, j'allais conseiller à Philippe David, s'il passait à Strasbourg, de venir vous voir, mais malheureusement, non.
Oui, mais j'ai la boule à zéro.
Voilà, il y a la boule à zéro.
Mais c'est quand même...
Je pourrais rien faire. Non,
si, un coup de tondeuse.
Ouais, ou alors un petit massage du crâne. Un petit massage du crâne.
Très bien.
Un petit massage avec notre nouvelle.
Vous lui conseillez une perruque.
Ça, je ne fais pas, par contre, oui.
Non, mais par contre, on parle de la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les métiers manuels. Être coiffeur, ça ne s'apprend pas comme ça en 15 jours. Est-ce que les jeunes viennent encore apprendre les métiers de la coiffure? Est-ce qu'ils sont encore motivés?
Bah écoutez, malheureusement, il y a eu beaucoup d'apprentissage en moins. Je sais que le gouvernement met en place des mesures, mais je pense que de ne pas avoir le week-end et la grille salariale est vraiment trop basse. Alors, on est en train de se battre actuellement pour ça. Je sais qu'à la Chambre des métiers, ça bouge, mais les grilles salariales à rapport aux compétences, ça ne motive pas les jeunes.
Et c'est ce que demande Christophe Doré, le patron de votre syndicat, évidemment.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il demande et on attend un petit peu des réponses. On voudrait un petit peu des réponses. La TVA, par exemple, pour avoir aussi un peu plus de marge, de manœuvre, et puis des grilles salariales en fonction des compétences des gens. Et ça, c'est toujours pas en route. Donc moi, je ne pouvais pas attendre ça et il faut que ça vienne. Donc à partir de là, j'ai créé un week-end. Voilà, un week-end.
Est-ce que ça risque pas de faire boule de neige? Parce qu'en vous entendant, des coiffeurs à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Paris vont peut-être se dire c'est une bonne idée.
Bah écoutez, je peux vous dire très franchement, j'ai reçu déjà des messages et des personnes qui vont faire exactement comme moi. Et des très beaux messages, vraiment de soutien, et qui veulent vraiment entreprendre cette démarche pour avoir...
Strasbourg est unique, à mon avis.
Oui, Strasbourg, Cronenbourg, chez John Paul.
Et voilà, merci.
Mais avec plaisir.
Merci John Paul, voilà, votre salon de coiffure est à Strasbourg.
Au moins, John Paul ne coupe pas les cheveux en quatre. Ça, on ne peut pas lui reprocher ça.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci à vous. Dans quelques instants, à la suite des Vraies Voix, on sera avec Philippe Rossi pour débattre avec Didier Demartigues et Éric de Bordeaux qui veulent débattre de nos deux débats du jour. Les Juifs ont-ils raison d'avoir peur? On parlait du procès pour l'assassinat de Mireille Knoll. Et ensuite, les policiers visés dans le quartier de la Duchère à Lyon. La guerre contre la drogue est-elle perdue? Restez bien avec nous en Les Vraies Voix sur Sud Radio.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Philippe Rossi est avec nous et nos deux vraies voix du soir sont Didier Demartigues. Bonsoir Didier.
Bonsoir Sud Radio, bonsoir à tous les auditeurs.
Ça c'est dans le 13 et on va dans le 31, on inverse les chiffres puisqu'on a avec nous Richard de Toulouse. Bonsoir Richard.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, on va commencer par parler de notre second débat, policier visé dans le quartier de la Duchère à Lyon. La guerre contre la drogue est-elle perdue? Qu'est-ce que vous en pensez Didier?
Alors écoutez, tout d'abord, moi en ce moment je suis catastrophé par tout ce qui se passe depuis même des années. Je vais faire le lien entre le trafic de drogue et les rodéos sauvages qui tournent en ce moment. La question, c'est comment déjà des personnes peuvent-ils se financer des motos, pareil, quand on voit les marques, quand on voit les calibres que c'est. Il est évident que c'est lié au trafic de drogue.
Ou au vol peut-être, vol de moto.
Soit au vol, mais moi je pense quand même que c'est lié, il y a du trafic derrière. Et j'aimerais simplement dire que comment voulez-vous qu'un agent des forces de l'ordre, qu'un policier, excusez-moi, c'est un peu en colère, hein, parce qu'en ce moment, comment voulez-vous qu'un policier puisse interpeller une personne alors qu'il n'a même pas le droit de prendre en chasse une personne en moto? Il n'a pas le droit, si une personne qui est liée au trafic de drogue, ou peu importe, frappe, tabasse un policier, vous savez combien elle se prend en termes de justice? Elle se prend 6 mois ferme, relaxée bien avant sous bonne conduite. Je trouve ça inadmissible. La justice est d'un laxisme insupportable et les policiers, à cause de ça, ont pour ordre de ne pas pouvoir faire leur travail correctement. Et ça, pour moi, c'est inadmissible sur le territoire français.
Alors, vous parliez des rodéos. Il y a encore eu un problème sur un rodéo dans les Hauts-de-France ce week-end. Un pauvre garçon qui était dans une voiture sans permis de 16 ans. Il est passé dans une rue où il y avait un rodéo. Ils ont carrément retourné sa voiture avec lui à l'intérieur. Absolument, une voiture sans permis. C'est absolument fou. On donne la parole à Richard de Toulouse. Est-ce que pour vous, la guerre contre la drogue, elle est perdue tant qu'on aura, je cite Didier, hein, une magistrature laxiste?
Je pense que la guerre contre le cannabis est perdue. Hein. Je suis déjà intervenu avec un syndicaliste de la police de Marseille pour dire en fait que le fait de maintenir aujourd'hui le cannabis interdit, on contribue, comme au temps de la prohibition aux États-Unis, à faire prospérer les mafias. Je pense qu'aujourd'hui, le cannabis est une drogue de consommation de masse, il faut l'admettre. Et maintenir ce marché en dehors de tout cadre légal, avec un cannabis, avec un taux de THC régulé, je pense que c'est vraiment laisser la porte ouverte à un financement. Et comme le disait votre interlocuteur, on amène des masses d'argent très très importantes au milieu via le cannabis. Voilà, pour moi, cette partie-là, elle est perdue. Pour ce qui est du reste, il faudra être un peu plus sévère. Je pense qu'il y a des moyens aussi de réguler les drogues plus dures en dépistant un peu plus.
Alors sur la légalisation du cannabis, je vous rejoins. Moi, je suis pas pour la légalisation du cannabis.
Moi non
mais
plus.
Ouais, mais c'est vrai qu'on a. Vous avez raison. On a l'impression que finalement, c'est ça qui va nous sortir du trafic de drogue, parce que le reste, si jamais la justice ne fait rien et ne muscle pas ses peines, c'est pas Gérald Darmanin le pauvre, mais n'importe quel ministre de l'Intérieur, c'est pas en envoyant 60, 70, 80 policiers de plus, c'est pas ça qui va régler le problème. Et puis sur la question de les policiers ont peur d'entrer dans les banlieues. Peut-être que vous avez raison, mais nous, on reçoit beaucoup de syndicats, de policiers. Et par exemple, voilà, ces patrons de syndicats, ces porte-paroles de syndicats vous disent que non. Au contraire, l'ordre est donné d'entrer dans les banlieues et que les policiers n'ont pas peur et entrent dans les banlieues. Sauf qu'une fois à l'intérieur dans les banlieues, comme ils savent très bien qu'ils vont se faire viser, qu'ils vont se faire souvent tirer dessus, ils contrôlent sans contrôler, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, hein. Mais il y a plus de trafiquants aujourd'hui armés lourdement que malheureusement de policiers qui souvent ont une voiture pour 5-6 personnes.
Justement, Didier de Martigues, vous avez entendu Richard de Toulouse et Philippe Rossi.
Oui.
Richard parlait de l'époque de la prohibition, c'était les années 20-30 aux États-Unis.
Oui.
Vous vous rappelez avec tous les alcools qui étaient interdits, ça a fait la fortune des mafias.
Oui, mais non.
Est-ce que quelque part on n'est pas dans ce problème-là? Parce que, excusez-moi, je vous donne la parole tout de suite. La drogue, c'est interdit. Les points de deal, on veut trouver du hashish, c'est d'une facilité déconcertante.
Ouais, on peut se faire livrer maintenant.
Absolument.
Ouais.
La prostitution, c'est interdit. On pénalise les clients. Est-ce que la prostitution a disparu en France?
Non.
Jamais de la vie. On parlait du hashish. L'héroïne, la cocaïne, c'est interdit. Est-ce qu'il n'y a pas d'héroïne, pas de cocaïne en France? Jamais de la vie. Est-ce qu'on n'est pas quelque part dans le déni de réalité que tout ce qu'on interdit, il y en a toujours?
De mon point de vue, je suis en léger désaccord avec Richard de Toulouse, parce que Richard, il a
ça s'appelle le débat, c'est bien.
Oui, il a une vision de façon à vouloir légaliser le cannabis, et il pense qu'en légalisant le cannabis, ça sera la solution pour qu'il y ait moins de violence liée au trafic de drogue. Moi, je suis plutôt comme pour solution pour une fermeté, une rigidité de la justice. Je suis pour que la justice soit beaucoup plus ferme et beaucoup plus autoritaire, et que les forces de l'ordre ne reçoivent plus d'ordre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous assure que les forces de l'ordre ont pour ordre de ne pas pourchasser des individus, des délinquants en scooter, parce que si jamais le délinquant il tombe du scooter, qu'il arrive quelque chose, qu'il meurt, ça va être tout pour le policier.
Ça c'est vrai. Et ça, notamment, il y a cette scène dont on a parlé tout à l'heure dans Bac Nord, où ils poursuivent des gros dealers dans une grosse berline ou un gros SUV, et on leur dit ne rentrez pas dans la cité, ordre, ne rentrez pas tout dans la cité. Et les dealers se foutent d'eux, il n'y a pas d'autre mot, en leur disant vous voyez, nous on fait ce qu'on veut dans la cité, vous, écoutez, vous respectez les ordres, donc vous ne rentrez pas. Richard, vous êtes d'accord avec ça?
Je comprends la frustration. J'entends la frustration face à l'absence de moyens pour pouvoir intervenir. Et je pense qu'elle ne doit pas nous aveugler, parce que aujourd'hui, le marché de la drogue, on le sait, il est très pyramidal. On enrichit de moins en moins de personnes. Hein, c'est comme dans le reste de la société. Et je pense qu'il y a beaucoup de petites mains qui polluent le travail. Et ces petites mains, c'est elles qu'il faut récupérer. Et on les récupérera pas sans investir massivement dans l'avenir. Moi, je comprends que l'égaliser n'est pas suffisant. Investir massivement dans l'avenir, c'est créer des internats pour sortir beaucoup de jeunes, dès le départ. C'est d'investissement à long terme. Et pour les amener à avoir des internats où l'après-midi on fait du sport, le matin on apprend, où l'après-midi on fait des travaux manuels, on arrête de faire de l'éducation sélective par... Et qui nous isole des gens,
de la population. Je voudrais vous poser une question à tous les deux. Quand on a goûté au fait de travailler, et je mets 3000 guillemets à travailler, hein, à faire le chouf, c'est les guetteurs en entrée des cités, où on va gagner en une journée, ou aller en trois jours, l'équivalent d'un SMIC, à se lever à 6h du matin et à se coucher tôt, parce qu'après, on est fatigué quand on vient du travail. Est-ce qu'on a envie d'aller faire des palettes, livrer des colis ou fabriquer des pizzas, votre avis, Didier ?
Ou même faire des formations pour une réinsertion active dans la société. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ça. Mais à l'époque, on va même pas chercher, il y a 25-30 ans de ça, il y a toujours eu du trafic de drogue. Est-ce qu'il y avait autant de violence que maintenant ? Non. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la justice a changé. La justice a changé, du laxisme à outrance est venu se répartir dans tous ces trafics. Encore une fois, pour moi, le problème, la source du problème, il y a toujours eu du trafic de drogue, il y a toujours de la prostitution, mais à l'époque, il n'y avait pas des violences comme ça. Le problème, pour moi, il est au niveau de la justice. Il faut rétablir des peines au niveau du trafic. Au niveau, même aujourd'hui, les trafiquants, ils sont munis d'armes de guerre, quoi.
Richard, est-ce que quelque part, ouais, vous allez faire travailler au SMIC des gens qui travaillent, gagnaient beaucoup mieux leur vie, en plus sans impôts, sans charges sociales, hein?
Je pense pas qu'aujourd'hui le simple chouf qui est sur son canapé que le chef de bande lui propose de tels salaires. Quoi qu'il arrive, si vous coupez le cannabis, il pourra plus le payer ça. Donc il sera obligé de revenir vers d'autres choses. Ce qui est certain, c'est que tant que la justice ne tapera pas au portefeuille et violemment des gens qui gèrent ces trafics, on n'arrivera pas à grand chose. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a une part de on est plus prompt à aller condamner un gilet jaune qu'un mafieux de Marseille, sûr, qu'un dealer, quoi, ou quelqu'un qui a jeté des pavés d'un haut d'un immeuble. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une forme de laxisme qui est fait, mais qui s'est fait au détriment des cités.
Comme disait Didier, on n'arrête pas ceux qui font des rodéos sur des motos volées. Par contre, si vous roulez à 5 à l'heure trop vite sur une autoroute déserte, là, on ne vous rattrape pas. Philippe Rossi.
Ouais, non, juste pour dire que des peines plus sévères, alors déjà, s'ils ont moins de 18 ans ou de 16 ans, je vous le dis, c'est peine perdue. Et s'ils ont plus de 18 ans, bah, franchement, moi, je suis très pessimiste, hein. Je vois pas la justice commencer à donner des peines de prison ferme en sachant qu'il n'y a pas assez de prisons en France et que dans nos prisons,
il y a un taux d'occupation. 100%.
Exactement. Ça va être très, très compliqué, à mon avis.
Les vraies voix, 19h14, avec nos deux vraies voix du jour, Didier de Martigues et Richard de Toulouse. On les retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Rossi. On a avec nous de deux vraies voix du jour, Didier de Martigues et Richard de Toulouse. Et on va parler de notre premier débat, désormais le procès des assassins de Mireille Knoll. Les juifs ont-ils raison d'avoir peur? Puisqu'on l'a rappelé, environ 30% des juifs de France sont partis depuis une trentaine d'années. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Noémie Madard, la présidente de l'Union des étudiants juifs de France. On va commencer avec vous, ce coup-là, Richard, vous qui êtes à Toulouse. Toulouse, c'est une ville qui a été meurtrie par les crimes antisémites, notamment avec l'affaire Mera. Est-ce que quelque part, c'est pas encore terriblement gravé au fer rouge dans les mémoires des Toulousains ?
Je sais pas. Je pense que sur Toulouse, il y a quand même une grosse communauté qui est installée durablement. Je pense qu'après, on a deux types de représentants de la communauté juive. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme tout le monde, qui sont dans la société civile, qui font des fois qu'on retrouve, que ce soit dans tous les postes, peut-être plus souvent dans la médecine aussi. Et après, il y a une communauté qui est un peu plus voyante. Je pense que c'est le CRIF aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit, qui aimerait que tout crime qui implique une victime juive soit considéré comme un crime raciste. En fait, je pense pas que ça aide beaucoup la communauté et je crois que c'est l'isoler par la différenciation. Moi, je pense que je trouve qu'il y a un effet de loupe des fois qui est dommageable.
On va donner la parole à Didier et après à Philippe Rossi. C'est vrai que les propos du CRIF, notamment sur Twitter, sont beaucoup critiqués, notamment au sein de la communauté juive. Didier de Martigues, est-ce que vous comprenez, vous, les juifs qui ont peur et dont certains sont partis à cause de la peur? C'est la présidente de l'UEJF qui nous le disait il y a un peu moins de deux heures.
Ah ben écoutez, il suffit de regarder les chiffres. Quels sont les chiffres? De combien a augmenté les agressions envers la communauté juive depuis l'année dernière? 27%. 27% d'agression en plus. Donc moi, je pense qu'il y a de quoi avoir peur en tant que juif. Moi, je ne suis pas juif, hein, mais je veux dire, je me mets à leur place. Et effectivement, j'estime que dans les années les plus sombres de notre histoire, on a agressé la communauté juive au nom d'un racisme athée. Aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. La plupart des agressions juives sont faites au nom d'une religion qu'on ne citera pas.
Ouais. Philippe Rossi,
bon, je suis d'accord. Bon, moi, je vous le dis, je suis juif comme Salomon dans Rabbi Jacob, voilà.
Oui. Mais on vous garde quand même.
Non, attendez,
vous
c'est gentil. Non, écoutez, je vais vous dire. D'abord, pour répondre à Richard tout à l'heure. Alors, Ilan Halimi, souvenez-vous, en 2006, c'était clairement un crime antisémite. Il y a pas de débat. Mireille Knoll, le parquet a retenu le crime antisémite.
Bien sûr.
Sarah Halimi, bon, il y a encore un débat.
On a dit qu'il était fou.
On a dit qu'il était fou, mais
bon, quelqu'un qui tue quelqu'un voilà. Au cri de sel juif pendant trois quarts d'heure, s'il on est d'accord. Pas antisémite,
donc en
il
tout
va
cas,
falloir m'expliquer.
Déjà sur ces trois cas, le crime antisémite pour moi est reconnu. Ensuite, bah écoutez, des faits divers, il y en a tous les jours. Hein, des jeunes juifs qui se font agresser. N'ayez pas peur des mots, ils se font la plupart du temps agressé par des jeunes musulmans, voilà, bah c'est ça qui importe souvent le conflit israélo-palestinien, qui les traite de sept juifs parce que les juifs sont riches, alors on le tabasse et on leur vole leur monte, ça c'est un fait. Et alors qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs années? Ben c'est que la communauté juive de France a peur. Alors il y a une partie de la
communauté. Vous avez peur?
Bah bien sûr que moi j'ai peur. Bah bien sûr. Bah
oui. Vous avez déjà été agressé?
Bah non. Alors moi quand je vais à la synagogue, ça m'arrive le samedi. Ma mère me le répète, mais je me fais discret. Les fois où je me suis pas fait discret, j'avais ma kippa sur la tête, ben j'ai eu des réflexions. Voilà, j'ai des gens qui viennent devant moi qui me disent tiens, un ami de Benalla, par exemple, pas plus tard qu'il y a un mois.
Je vois
il y a
pas
une
le rapport avec Benalla.
Bah, parce qu'on a dit qu'il fricotait avec les juifs. Bon,
d'accord,
il y a un mois, j'étais dans le train, j'avais ma chaîne, voilà, avec une Magen David qui pendait.
Et Magen David, c'est étoile de
c'est
David.
C'est une étoile de David, pardon, qui pendait. Bah voilà, il y a un jeune qui est venu vers moi et qui m'a dit vive la Palestine, voilà, qui a essayé de m'embêter. Bon, bah, c'est un fait. Alors, soit la communauté juive part en Israël parce qu'elle a de la famille là-bas, parce qu'elle y va, ou alors ce qu'elle fait, c'est certaines communautés qui étaient dans des banlieues comme Sarcelles, par exemple, en région parisienne, eh bien, elles changent d'endroit et elles vont, par exemple, dans des arrondissements où ça craint un peu moins. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est une vraie réalité. C'est pas un fantasme.
Une vraie réalité. On suivra, évidemment, avec beaucoup d'attention, le procès des assassins présumés de Mireille Knoll. Alors, l'un dit que c'est l'autre et l'autre dit que c'est l'un pour faire émerger la vérité.
Ouais.
Ça va être, à mon avis, assez compliqué. Merci beaucoup Didier de Martigues et Richard de Toulouse. Maintenant,
merci
ça se passe avec vous, Philippe Rossi.
Et les voies de l'emploi. Ce soir. Alors, vous savez que il y a une étude Ipsos qui est parue hier pour le projet Voltaire. Il y a trop de fautes d'orthographe au travail. 76% des employeurs disent être confrontés à des lacunes en français au sein de leur propre équipe. On aura donc la présidente du projet Voltaire qui sera avec nous dans quelques minutes. Et puis, sachez qu'il y a un record d'embauche en France ces dernières semaines. Le chômage qui est au plus bas. Est-ce que cette embellie va durer? En tout cas, je le souhaite à notre pays. On en débattra avec Luc-Éric Rieff qui sera avec nous et Emmanuel Lafond. Et dans l'immédiat, eh bien, comme chaque soir sur Sud Radio, c'est Conseil de famille, les questions de votre patrimoine. On parle de gestion de patrimoine tout de suite avec Stéphane Moller.